seul. Donc, c'est une valeur ajoutée à notre vie. En autant, bien sûr, que ce mariage soit ce que Dieu veut qu'il soit. C'est d'ailleurs le titre du message de ce matin. Et c'est un peu dans cette direction-là qu'on va aller. C'est-à-dire, comment on fait pour, si Dieu a ce plan si merveilleux pour nous, comment ça se fait, un, que je ne le vis pas toujours, ou je ne le vis pas, certains le vivent plus ou moins, et comment faire en sorte? Donc, le mariage, c'est non seulement l'invention de Dieu, mais c'est aussi l'intention de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, je crois qu'il y a des paramètres dans la relation d'un couple qu'on ne retrouve pas simplement dans une union de fait ou le fait d'être en concubinage, parce qu'il y a des niveaux d'attachement qui sont moins. Pourquoi, vous savez, quand je parle avec des jeunes, parfois je rencontre des couples, puis ils sont pas mariés, mais ils sont ensemble depuis 15 ans, ils ont 2-3 enfants, puis je leur dis, mais pourquoi vous vous mariez pas? Et vous savez ce qu'ils me répondent? Et pourquoi on se marierait? Ça va bien? Et là, c'est intéressant comme réponse. Ça veut dire que le mariage amène un risque que ça aille mal. Pourquoi on se marierait, ça va bien, là? Se marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire oh. Mais en fait, ce qu'ils ont, et probablement que c'est un peu de léger traumatisme, probablement qu'ils ont vu le mariage de leurs parents ou de leurs oncles ou de la famille malheureux, et que les gens sont restés dans ce mariage-là toute leur vie avec de la souffrance et tout cela. Puis ils disent, mais le problème, c'est le mariage. Mais le problème, c'est pas le mariage. Le problème, c'est la relation qu'eux avaient. Donc, le mariage, ça cause pas de problème. Mais dans l'imagination des gens, dans la conception qu'ils ont, ils imaginent ce mariage-là. La notion de mariage comme étant un problème, mais ça ne l'est pas. Voilà pourquoi et on doit être capable de comprendre que les gens se gardent une marge de manœuvre. Je m'attache, mais je ne m'attache pas. Je m'attache, mais avec une certaine limite, de façon à ce que je ne perde pas tout. Vous voyez, toute donc, dans cette retenue, cette difficulté à s'attacher à l'autre, il y a quelque chose qui, je vais prendre l'expression politique, d'un beau risque. C'est-à-dire qu'il y a un beau risque, mais qu'on peut vivre. Et quand au moment où je vous dis ça, je suis en train de penser à ma femme. J'ai rencontré ma femme à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est 15 000 km d'ici. C'est une île dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar. Elle a tout quitté, son emploi, sa famille, sa sécurité là-bas, pour venir au Canada. D'ailleurs, les gens disent toujours, mais c'est quoi l'idée d'amener une fille qui vit dans un paradis au Canada? Mais la réponse est bien simple, c'est que le froid, ça conserve. OK? Donc, je vais la garder longtemps. OK? Par contre, je dois vous dire que dans mon contrat de mariage, j'ai une petite clause, un petit caractère minuscule, c'est indiqué que je dois la ramener au soleil à chaque année. OK? Cette année, c'est fait. Ça a été fait, là. Donc, je suis bon pour 12 mois. Donc, l'idée derrière tout cela, c'est que, voyez-vous, le niveau d'attachement, et quand on réalise cette force-là, bien sûr, c'est ce qui fait que on est soudés ensemble, on travaille ensemble, et on construit ensemble, et on bâtit un projet de mariage, un projet de famille ensemble dans cette réalité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ce matin, on va parler un peu d'engagement. Je vais vous parler de 3 niveaux d'engagement. Votre engagement envers Dieu, votre engagement envers votre mari ou votre épouse, votre conjoint, votre conjointe, et un engagement envers, justement, le mariage, un peu comme je l'ai mentionné il y a quelques instants. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est l'engagement. L'engagement ou la consécration, c'est l'ensemble des, engagement, consécration comme synonyme, c'est l'ensemble des efforts déployés pour offrir et maintenir notre vie entre les mains de Dieu et ainsi lui permettre de faire son œuvre en nous et par nous. Le défi du mariage, c'est d'apprendre à vivre ensemble à partir de ce que nous sommes comme personnes humaines. Et on se rend compte très, 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 très tôt que, en fait, notre mariage ne peut pas devenir plus à cause de nous, à cause de nos soucis, à cause de nos difficultés, à cause de notre passé, à cause de nos problèmes, à cause de ce que nous sommes. Moi, je repense à quand je me suis marié, j'avais 23 ans, mon premier mariage, et je réalise avec les années combien je ne savais pas ce que c'était un mariage. OK? Même si j'avais suivi à l'époque des cours de préparation, c'était assez léger non plus. Tu lis le petit bouquin, puis t'obéis, puis tu poses pas de questions. On se réveille marié, on s'aperçoit qu'on n'est pas équipé. On ne sait pas comment ça marche, on n'a pas le mode d'emploi, et tout ça, ce qui devient quelque chose de très, très difficile. Et aussi, on a plein de défauts, on est centré sur soi, on est égoïste. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire ceci. Vous savez, les personnes seules, non mariées, ne sont jamais aussi transformées qu'une personne mariée. Pensez-y, pensez à votre condition, tout ce que vous avez dû changer dans votre vie pour vous adapter, pour des choses que vous avez dû laisser tomber, d'autres choses que vous avez dû développer et tout ça. Voyez-vous, une personne non mariée, là, elle a comme préoccupation elle et elle-même. Voyez-vous, tandis que dans un couple marié, on commence à penser à l'autre. Puis même, c'est fou comment tout cela change, tout cela devient. Encore une fois, quand je parle de changement, je ne parle pas nécessairement de changement négatif, dans le sens où j'ai oublié un parmesan, j'ai oublié de tout lâcher, mes amis. Non, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens qu'on s'est peaufiné, on s'est raffiné, on s'est transformé. Puis, d'ailleurs, je crois qu'un couple marié sans enfants n'est pas aussi transformé qu'un couple marié avec des enfants. OK? Si vous avez des enfants, vous le savez. Puis un couple marié avec un enfant, c'est pas la même chose qu'avec 2, 3, 4, 5, 10, 12. Bon, on va arrêter là. Comprenez-vous? Parce que dans la multiplicité des interactions et tout ça, moi, j'ai eu 4 garçons. C'est évident que j'ai passé des années à ne pas penser à moi, dans le sens, pas négatif du terme, dans le sens de me consacrer à les autres, de me consacrer à quelque chose et tout ça. Voyez-vous que ça amène cette décentration. Dans un contexte si moderne où on doit penser à nous-mêmes, c'est moi, me, myself, and I, c'est moi ma préoccupation, c'est mes projets, ma vie, voyez-vous. Et on pense que plus qu'on a de nous, plus on sera heureux, mais on s'aperçoit que c'est pas la vie, le bonheur ne se construit pas à partir seulement de soi-même, mais à partir des relations que nous avons avec les gens qui sont autour de nous, dont les gens les plus proches, qui sont notre mari, notre femme et notre famille. Vous comprenez? Donc, maintenant, si on en revient à Dieu, le principe ici que je veux vous illustrer, c'est que votre mariage va pouvoir devenir ce que Dieu veut qu'il soit, que dans la mesure où vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Je crois que l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne humaine. Au-delà de la doctrine, au-delà de la théologie, Dieu prend des êtres déformés par la vie, par le péché, et veut faire une œuvre de transformation. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais justement parce qu'il nous aime et veut nous amener à devenir ce que lui veut que nous soyons. Donc, moi, j'appelle souvent le Saint-Esprit le ministre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'occupe des choses internes et enclenche tout un travail de transformation de ma vie pour que je devienne une meilleure personne, pour que le meilleur de moi puisse surgir, puisse émerger et que je devienne ce que Dieu veut que je sois. Maintenant, comment tout ça peut être possible dans la mesure où je me consacre à lui? Quand je me consacre à lui, selon la définition que je viens de vous mettre à l'écran, c'est que je déploie une énergie, non seulement pour mettre ma vie entre les mains de Dieu, pour offrir ma vie entre les mains de Dieu, mais pour la maintenir là. Le problème de plein de gens, c'est qu'ils sont un peu bipolaires. OK, c'est un thème à la mode de nos jours. Ils ont une espèce de bouche où là, ils se consacrent à Dieu, mais ça dure pas. Ils redescendent. Ils remontent. Donc, c'est comme si, pour moi, l'important, c'est de maintenir ma vie entre les mains de Dieu. Et pourquoi? En fait, il faut que j'aie une relation stable avec lui, parce que lorsque je fais cela, je lui donne l'espace nécessaire, la marge de manœuvre pour qu'il puisse travailler dans ma vie et faire de moi ce que lui veut que je sois, et qui est plus que ce que je pourrais jamais faire par moi-même en essayant de changer seulement par moi-même. Maintenant, ça nous amène à la question, mais à quoi ressemble une personne transformée? À quoi ressemble un homme et une femme transformés? On a la réponse dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Galates au chapitre 5, on parle du fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est pas le résultat de mes efforts à moi. Il faut que j'aime, il faut que je sois heureux, C'est plus que cela. C'est un travail qui se fait à l'intérieur. C'est pas le fruit de mes efforts, c'est pas le fruit de mon travail, c'est le fruit du travail du Saint-Esprit dans ma vie. Ce qu'on appelle le fruit, c'est le résultat. C'est le fruit de son travail. C'est lui qui agit dans ma vie. Alors, lorsque je suis consacré à lui, lorsque je lui donne ma vie, il commence à faire un travail de transformation. Et croyez-moi, je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, je sais d'où je viens. Je sais, je connais mon passé. Je ne viens pas d'une famille trop mal en point, une relativement bonne famille, mais je sais toute la construction qui devait se faire à l'intérieur de moi, tout ce fruit que je devais porter. Maintenant, c'est important parce que je dois personnellement, moi comme homme ou comme femme, je dois devenir ce que Dieu veut que je sois. Et pour le devenir, il faut qu'il travaille en moi et qu'il me transforme à sa même image, à la même image. Et ces caractéristiques du changement sont justement chacune des dimensions du fruit de l'esprit. Vous savez, moi, je crois que lorsque l'apôtre Paul a eu cette révélation et qu'il a écrit ses textes, il n'a pas simplement lancé des mots sur une page ou sur un parchemin en disant, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit, moi? Il amène des caractéristiques fondamentales. Laissez-moi juste vous donner un exemple. L'amour. N'importe quel médecin, N'importe quel psychiatre, psychologue, travailleur social, peu importe la formation en sciences humaines, va vous dire que le besoin le plus fondamental chez tout être humain, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. C'est même, il y a même des recherches qui ont démontré que c'est le besoin chez le tout petit bébé plus important même que le fait de se nourrir. Maintenant, bien sûr, on n'opposera pas les concepts, on ne peut pas juste vivre l'amour. Mais dans la construction de sa personne, dans l'établissement de sa personnalité, de sa hiage, le cours que je donnais, c'est sur les troubles de la personnalité humaine, les difficultés dans la vie humaine. Et tout ça, on sait que tout provient de lacunes et de manque d'amour. Un jour, j'étais en voiture, j'écoutais la radio, il y avait une entrevue à la radio de Radio-Canada par un psychiatre de l'hôpital Douglas à Montréal qui s'appelle Hans Lechner, qui est mort maintenant, un homme qui a passé sa vie avec les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, des schizophrénies, imaginez les cas les plus graves. Et l'intervieweur à la radio lui pose la question, « Croyez-vous qu'on aurait pu changer ça? » Et il a répondu une phrase, il en a une réponse qui a bouleversé ma vie. Il a dit, j'ai entendu, « Si ma vie serait recommencée, je montrerais aux parents comment aimer leurs enfants correctement. » Puis ainsi, je réglerai la moitié de tous les problèmes de santé mentale. Je dis, waouh! Mais maintenant, c'est une sommité, le gars, là. C'est un spécialiste du domaine, voyez-vous? Donc, on est capable de comprendre. On se concentre que pas rien de magique dans la vie. Mais fondamentalement, lorsqu'on est en lacune face à cette dimension d'amour, ça devient la quête tout au long de notre vie pour trouver des façons de combler ce vide du fait de ne pas avoir été assez aimé ou du fait de ne pas avoir été aimé ou simplement d'avoir été mal aimé aussi dans cette dimension. Est-ce que vous me suivez? Donc, une personne transformée, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Regardez-moi ici un instant. Messieurs, écoutez-moi pas, je veux juste parler à vos femmes 2 secondes, OK? Bouchez-vous les oreilles. Mesdames, regardez-moi, mesdames. Êtes-vous d'accord avec moi qu'un mari rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, c'est beaucoup plus agréable de compagnie qu'un monsieur frustré, instable, toujours en train de ronchonchonner, bougonner, râler, chialer, prenez l'expression que vous voulez. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Vous n'êtes pas d'être convaincu? Ah, c'est parce que votre mari est à côté de vous, c'est ça. Hein? Je ne répondrai qu'en présence. Je ne vais pas me retrouver à la maison. OK, bon. Messieurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'une épouse remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, excusez-moi, j'ai resté accroché, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise, c'est beaucoup plus agréable de compagnie qu'une femme qui est toujours sur notre dos, en train de regarder tout ce qu'on ne fait pas de bien, tout ce qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas, qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi, vous tous, qu'une famille, un foyer rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ça ne donne pas le même résultat au niveau des enfants qu'un foyer où il y a la tempête, les chicanes, les disputes, les silences, tout ce qui peut prendre place dans une famille. Vous voyez, ça ne donne pas le même résultat. Donc, la vie de quelqu'un, elle est tissée à partir d'un contexte, d'un milieu, et ce milieu-là, la porte-parole en passe, c'est un milieu où il y a de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. Et c'est la même chose pour une église. Je crois qu'une église remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, impacte davantage cette société autour qu'une église qui juge, qu'une église qui rejette, qu'une église qui repousse, qu'une église qui se retourne sur elle-même et tout cela. Pourquoi? Parce que ce que les gens cherchent au dehors, c'est justement de vivre ces éléments-là. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde recherche d'être aimé. C'est universel, peu importe la culture, peu importe l'époque, voyez-vous? Et nous, on est détenteurs de cette réalité-là. Donc, au besoin le plus fondamental de l'humain, qui est l'amour, la plus grande révélation à l'humanité, c'est un Dieu d'amour. OK? Et tout ce qui résume toute la loi et tous les prophètes dans l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, ta force, ta pensée, ton âme, et ton prochain comme toi-même. » Voyez-vous? Donc, si on avait à résumer le christianisme en une seule expression, c'est une religion d'amour. Ça doit être la caractéristique première. Par contre, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on regarde autour de nous, ce n'est pas beaucoup ce qu'on voit. On voit des divisions, on voit des rivalités, on voit toutes des choses qui, en fait, sont des manifestations, non pas de gens transformés, mais des œuvres de la nature humaine non transformées, ce qu'on appelle la chair humaine. Donc, le seul moyen que j'ai de devenir ce que Dieu veut que je sois, c'est de le laisser travailler dans ma vie. Et vous voyez ces caractéristiques, c'est pas quelque chose de douloureux. Qui ne peut pas avoir plus d'amour, être aimé plus ou être plus dans la joie? On a tous à cœur d'expérimenter pleinement tout cela. Le principe est le suivant. Premier principe ce matin, vous n'obtiendrez pas le mariage que Dieu veut que vous ayez, à moins que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Je répète, vous n'obtiendrez pas le mariage que Dieu veut que vous ayez, à moins que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Votre mariage ne peut pas être plus que ce que vous êtes. Parce que le mariage, c'est votre construction. C'est vous qui avez fait de ce mariage, de cette relation, ce qu'elle est maintenant. Peu importe le bilan que vous en faites. Donc, c'est un des éléments importants et voilà pourquoi on a besoin d'être transformé. Ne voyez pas votre besoin de transformation comme étant une disqualification. Je suis tellement moche, tellement poche que Dieu est obligé de me transformer. On transforme quelqu'un non pas à cause de ce qu'il était, mais à cause de ce qu'il doit devenir.
Amen.
Oui, c'est ça la réalité. Dieu nous projette vers en avant. OK? Faisant de nous des êtres meilleurs, des êtres plus aimants, des êtres, encore une fois, qui portent à pleine maturité chacune des caractéristiques du Saint-Esprit. Deuxième élément ce matin, se consacrer à votre époux et à votre épouse. C'est pourquoi l'homme, et je recite le verset de Genèse chapitre 2, mais je l'extrait d'Éphésiens chapitre 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, c'est l'apôtre Paul qui dit, quelque chose de mystérieux. Et honnêtement, c'est mystérieux. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La réalité, encore une fois, de ce texte remet en évidence tout ce que je viens tout juste de vous dire, c'est-à-dire la notion d'amour qui revient ici, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même que la femme respecte son mari. Le processus d'attachement passe par l'amour. Quand il n'y a pas d'amour dans le mariage, il y a une distance qui se crée. Vous rappelez-vous d'un film qui avait sorti aux États-Unis qui s'appelle « Sleeping with the Enemy ». OK, on va dire, ou en français, je pense que c'est « Minuit avec mon ennemi ». Il y a aussi l'histoire d'un couple où le mari était violent et tout cela, qui était très connu à une certaine époque, avec Julia Roberts. La réalité, c'est qu'on voit tout de suite la distance qui se crée. Et souvent, le problème que nous avons, c'est qu'il y a des blessures dans le mariage. Les gens blessés blessent les gens. Ou les gens en manque privent les autres. Voyez-vous? Donc, on rentre dans le mariage avec notre vie sans trop savoir ce qui se passe. Et à un moment donné, on se réveille, on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose, et puis on tombe en mode de réaction, on réagit à l'autre et tout cela. Et ce mariage amoureux du départ, OK, commence littéralement une certaine dérive qui fait en sorte que les gens s'éloignent. Mais les gens, ils restent ensemble, ils restent dans la même maison, mais ils n'ont plus cette complicité, cette relation. Vous savez, le défi de mon mariage actuel, moi, c'est que je voyage beaucoup. Je suis parti à chaque mois, une semaine, deux semaines parfois. Donc, moi et ma femme, on en parle souvent, elle vient avec moi, mais parfois dans certains pays, elle ne peut pas venir avec moi ou elle ne désire pas venir avec moi. Et c'est toujours l'élément, il faut qu'on retravaille constamment. Donc, dès que je reviens, on reprend du temps ensemble, on fait des activités ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance, même si la distance n'est pas une distance émotionnelle dans le sens qu'on se détache dans notre cœur, il y a une distance géographique, voyez-vous. Et dans ce sens-là, c'est facile de perdre vie. Mais on est hyper conscient de cela, que ce qu'on a vécu qui était si beau, on veut le préserver. Le pasteur parlait de garder ce feu sacré. Vous savez, vous êtes des Québécois. On ne met pas une bûche au début de l'hiver dans votre foyer en croyant qu'elle va brûler tout l'hiver. Vous entretenez votre foyer, vous entretenez votre poêle à bois, votre poêle à combustion. Je suis content de parler comme ça, parce que quand je suis en France, ils ne comprennent pas ce que je dis. C'est quoi ça, un poêle à bois? C'est quoi ça, un poêle à combustion lente? Donc, la réalité, c'est qu'on est conscient que... Et vous savez déjà, si certains d'entre vous avez déjà vécu dans une maison où vous devez seulement chauffer au bois, vous savez que lorsque ça tout s'éteint, et vous êtes 24 heures sans revenir et que la maison s'est refroidie, c'est long à repartir. Hein? C'est-à-dire, on chauffe... Mais le foyer est chaud, mais avant que les murs réchauffent et toute la maisonnée se réchauffe, ça prend un bon moment. C'est une super belle représentation de ce qu'elle est dans un couple. Donc, heureux les couples qui s'entretiennent constamment comme ça et qui maintiennent ces choses-là. Donc, ce mystère du mariage est quelque chose de, à la fois spirituel profondément, parce qu'encore une fois, c'est l'invention de Dieu et c'est l'intention de Dieu. Et c'est aussi un partenariat avec Dieu, mais qui met en perspective le fait de s'engager et de se consacrer. Et lorsqu'ici, je parle de se consacrer à notre époux et à notre épouse, la plupart des gens disent, ouais, ça veut dire quoi, là? Mais surtout les gars. Faut que je parle avec elle, là, des heures et des heures de temps, là, okay? Bon. Regardez-moi bien. Quand on aime, comment on fait pour savoir le degré d'attachement ou le degré d'engagement ou le degré de consécration de quelqu'un. On le sait à partir de deux éléments. Le temps que l'on passe et l'énergie que l'on déploie. Quand on aime quelque chose, pensez en ce moment, l'espace, un instant, à un hobby que vous avez, ou un passe-temps, ou quelque chose que vous aimez, votre dada, là, ça, j'aime tellement ça. Est-ce que vous comptez le temps? Non. En fait, là, vous voudriez passer le plus de temps possible à faire cette activité-là que vous aimez beaucoup. Ça peut être un sport, peu importe. Puis après coup, vous allez déployer de l'énergie. Vous allez vous investir dans tout cela. Okay? Il y a quelques années de cela, j'étais en train de faire des courses au supermarché. Et j'arrive à la caisse. Et la dame qui est juste en face, en avant de moi, qui me précède à la caisse, connaît la caissière. Je pense que c'est IGA, je sais pas où je l'étais à cette époque-là. Et moi, je suis juste là, puis tout d'un coup, je suis témoin de leur conversation. C'est pas que j'écoutais, là, mais ça c'est de pas écouter, on est à la caisse, là, OK? Et les deux copines commencent à se parler. Alors, ça va, toi, c'est longtemps qu'on s'est vu, ouais, et comment va ton mari, ça va bien? Toi, ça va. On était au printemps, elle a dit, là, il vient de sortir sa moto du cabanon. Il passe ses journées à l'astiquer, à la frotter. Puis là, la fille a dit, en tout cas, s'il m'astiquait ou me frottait autant qu'il frotte sa moto, ma vie serait transformée. Et là, je souriais, je disais, c'est vrai aussi, le gars, vous savez, c'est très masculin, ça, OK? Mais la réalité, c'est qu'on s'investit dans quelque chose. OK? On s'investit dans quelque chose, puis on a le résultat dans cette chose-là. Remarquez le processus, puis tous les humains, on est comme ça. Durant les fréquentations, on s'investit. OK? Dans les fréquentations, on ne fait pas de surtemps, d'overtime. On n'en fait pas. OK? Si on peut partir plus tôt, on part plus tôt. OK? Oui, il y a tout un moment donné, et encore une fois, monsieur, je suis avec vous, là, mais c'est très masculin. Pour les gars, lorsque le contrat est signé, on pense à autre chose. C'est réglé, OK? Dossier est réglé, je suis marié maintenant, je pense à autre chose. Mais pour les femmes, c'est pas la même chose. Parce que pour eux, c'est la vie. Et là, évidemment, nous, puis mesdames, vous devez le savoir, nous, les gars, là, moi, avant de me marier, je n'ai pas passé des heures à imaginer quel costume je prendrais, quelle fleur j'aurais à la boutonnière. Je n'ai pas passé des heures, là. On va aller chercher quelque chose, on va se marier. Moi, c'est important, c'est que je sois marié. Bon. Mais les femmes, la robe, le décorum, les bouquetières, la musique, tout ça, OK? Voyez-vous que c'est beaucoup plus. Mais nous, dans tout ça, comme hommes, on doit être capable de faire une transition puis comprendre que ce n'est pas un projet féminin, la famille ou le mariage, c'est un projet qu'on construit à deux. Voilà pourquoi on doit se consacrer à cela, OK? On reconnaît encore une fois le niveau de consécration à l'énergie. Vous ne pourrez pas avoir le mariage que vous ayez à moins que vous vous consacrez à quelque chose. Il faut que vous investissiez dans tout cela. Maintenant, ne voyez pas ça comme étant, un investissement beaucoup plus qu'une dépense d'énergie. OK? Quand on est bien ensemble, voyez-vous, on passe du temps ensemble. Si je veux avoir le résultat que je désire avoir, il va falloir que je mette de l'énergie dans ce sens-là. Vous êtes toujours avec moi? Ça m'amène au deuxième principe. Vous n'obtiendrez pas le mariage que vous désirez à moins de vous consacrer à votre conjoint en priorité. OK? Il faut que Dieu a placé à côté de vous une femme ou un homme. Si vous croyez que c'est de Dieu, et si vous croyez que le mariage est quelque chose de divin, vous devez comprendre qu'il va falloir que vous preniez soin de cette personne-là. Et comme on le dit souvent, on n'est pas marié l'un contre l'autre. On est marié l'un avec l'autre. Donc, on n'est pas avec des ennemis. Évidemment, je suis assez conscient, de par ma profession et de par mon travail, qu'il y a des problèmes dans la vie de couple. OK? Mais encore, voilà pourquoi l'important d'être transformé. Vous savez, le problème dans la vie, c'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. OK? Le problème dans la vie, c'est d'appliquer des solutions. Et la plupart des... Moi, bien sûr, c'est la devise de mon ministère, des solutions pour la vie. Moi, je propose des solutions. Je crois à des solutions. Je crois que la solution première est bien sûr Dieu, mais je crois qu'il y a des solutions par rapport à plein de situations. La table, vous allez voir en arrière, c'est plein de sujets qui adressent les problèmes de la nature humaine. La peur, vous avez discuté, vous êtes toujours un peu pris, un peu inhibé, un peu coincé. Mais Dieu veut que vous sortiez de vos ornières, de votre état, que vous viviez une vie de liberté, tout cela. Vous avez des problèmes de tempérament, vous êtes colérique. Il y a des solutions, ça se corrige, ça se gère. Tout ça. Vous savez, souvent les gens posent la question, croyez-vous vraiment que tous les problèmes se règlent? C'est ma réponse, oui. Pas toujours à mon goût, pas toujours comme je voudrais, mais ça se règle. Parfois c'est douloureux, mais ça se règle. Voyez-vous? Donc, il faut focaliser sur des solutions, il faut focaliser encore une fois sur notre transformation, puis il faut focaliser sur cette relation que nous avons l'un avec l'autre, de façon à ce que ce mariage devienne ce que Dieu veut que ce soit. Je poursuis. Ça, c'est le deuxième niveau de consécration. Je me consacre à Dieu, lui permettant de faire un travail dans ma vie de transformation. Je me consacre à mon époux, et mon époux, je fais deux, le centre de ma vie après Dieu, évidemment, de façon à ce que ce couple-là devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Et ça m'amène à nous consacrer à la question du mariage ou à notre mariage en tant que tel. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est hyper intéressant que le mariage soit honoré de tous. Donc, c'est comme revaloriser, replacer dans un contexte d'importance et de valeur. C'est l'honneur qu'on accorde à quelque chose. Et cette question du mariage, elle demeure importante dans la perspective suivante. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'institution du mariage. En fait, le mariage, c'est plus qu'une institution. D'ailleurs, qui c'est qui veut vivre dans une institution? On n'est pas dans une institution, on est dans une relation. Mais la réalité, je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais on se retrouve que le mariage est parfois, mis sous tension à cause des soucis, des problèmes qui se manifestent. Récemment, comme vous le savez tous, il y a le grand évangéliste américain Billy Graham qui est décédé presque à l'âge, du moins dans sa 100e année. Et ça me rappelle, et sa femme Ruth, elle est décédée il y a plusieurs années déjà, mais vous savez qu'elle a déjà été interviewée dans une émission de télé aux États-Unis où, toujours un peu, quand on a des personnages chrétiens très célèbres, on pose toujours des questions un peu pour les mettre un peu à porte-à-faux. Et ils ont posé la question, vous, votre mariage et tout ça, Ruth, est-ce que vous avez déjà envisagé le divorce avec Billy Graham? Vous savez ce qu'elle a répondu? Jamais j'ai envisagé le divorce. J'ai envisagé le meurtre, mais jamais le divorce. Et c'est étonnant pour une dame comme ça, mais vous savez, quand vous lisez la biographie, vous apercevez que c'est beau d'être marié avec le plus grand évangéliste au monde. Le grand évangéliste au monde n'était pas à la maison, hein. Il était à travers la planète. Donc, puis d'un autre côté, honnêtement, on a tous à un moment donné de dire plus capable, donc voyez-vous. Donc on se retrouve dans un contexte et le phénomène, c'est que on a tous à un moment donné envisagé de quitter cette relation-là, mais ce qui nous a maintenus, c'est aussi un cadre. Et ce cadre-là, ne le voyez pas comme un mur de prison, mais voyez-le davantage comme étant un mur de protection. Dans toute relation, bien sûr, surtout dans le cadre du mariage, il y a trois grandes phases. La première phase, c'est la phase qu'on appelle d'exaltation. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est en mode extatique. Wow! On est amoureux, on est tombé amoureux. Et c'est la passion, c'est fou. Et comment on fait pour savoir quelqu'un qui est en mode d'exaltation à cette première phase-là? C'est que vous l'écoutez parler. Votre copine va vous dire, « Hey, j'ai rencontré l'homme de ma vie, avec un grand H. OK? J'y cherche des défauts, j'en trouve pas. » La réponse, « Attends d'être marié, tu vas en avoir suffisamment, mais avant de marier, c'est pas toujours visible. » Ou le gars va dire, j'ai trouvé la femme est parfaite, c'est mon type de femme et tout ça. Voyez-vous, ils sont en mode où, dans cet espace, c'est bien que ce soit comme ça, là, je ne suis pas en mode de moquerie, mais on est aussi dans des zones aveugles. Il y a des choses que l'on voit, mais il y a des choses que l'on ne voit pas. Et on ne les voit pas parce qu'on ne peut pas les voir, parce qu'on est dans les prémices d'une relation. C'est vrai aussi pour l'amitié, sauf que dans le niveau d'amitié, le niveau d'exaltation est moins élevé, il n'y a pas de passion dans le niveau de l'amitié, dans le sens très intérieur et émotionnel du terme. Mais cette première phase-là d'exaltation, ce n'est pas une phase réaliste. Okay? Mais elle est suivie d'une deuxième phase, qui est la phase de déception. Et la phase de déception, c'est la phase inverse. C'est-à-dire, je n'avais pas vu ça. Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Il y a plein de situations qui sont comme ça. Okay? Parce que dans la phase d'exaltation, on est en train d'idéaliser. Okay? On a tous des films américains de romance. On était formaté avec toutes ces images, OK? Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Bon, on a l'impression que ça va durer pour toujours. Puis on se réveille. Et habituellement, la phase de déception, bien sûr, elle prend place après le mariage, dans le vivre ensemble, dans le vécu partagé, parce que là, on a accès effectivement à une information qu'on n'a pas accès avant le mariage, OK? Évidemment, la plupart des mariages s'effondrent dans la deuxième phase. Et les gens s'arrêtent là parce qu'ils ne voient pas de possibilité qu'on puisse passer une troisième phase. Mais il y a une troisième phase que j'ai appelée la phase de maturation. On rentre dans le mariage un peu immature, peu importe l'âge qu'on a. Okay? Moi, ça me gêne un petit peu de vous raconter ça, mais quand j'ai rencontré ma femme actuelle, il y a 2013, Je suis tombé amoureux. J'étais flabbergasté. OK. Je pourrais vous raconter le contexte, mais on n'a pas le temps ce matin. Mais puis mes fils, ils sont des adultes. Puis ils voient leur père. Ils n'ont pas pu me voir dans mon premier mariage. Quand j'ai rencontré leur mère, ils n'étaient pas au monde. Ils n'étaient pas nés. Ils n'étaient pas conçus. Mais dans le deuxième mariage, ils ont vu leur père. Ils disent, « Père, tu t'es pas vu? » Je me suis pas vu, T'as-tu vu tes yeux? As-tu vu? Ben, puis à un moment donné, l'espace de naissance, j'avais un peu honte. D'être visible. Ouais. Puis après coup, j'ai dit, mais de quoi j'ai honte, moi? Je vis une expérience fascinante de wow! OK? Puis là, on a eu des discussions avec mes fils, on a rétabli tout ça. Je dis, écoute, vous voulez avoir un père grincheux, ronchonchon, grognon le reste de sa vie, ou bien vous voulez avoir un père qui s'épanouit et tout ça, voyez-vous? Mais beaucoup de gens ne vivent pas ça. Mais c'est bien cette première phase-là, mais bien sûr que dans le vécu partagé, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Surtout, dans mon cas, c'était l'interculturalité. C'est-à-dire, pas de la même culture. C'est bien sûr qu'il y a une culture familiale, on n'est pas tous des mêmes familles. Il y a une culture de région du Québec, Marien et Beauson, avec quelqu'un du Lac-Saint-Jean, c'est quand même, ou de Gaspésie, il faut le faire. Ou un Montréalais avec quelqu'un de Sainte-Terre en Abitibi, vous pouvez pas gagner, OK? Fait que vous imaginez qu'un Québécois avec une Française d'origine réunionnaise, c'est pas évident, on n'a même pas les mêmes expressions, on n'a pas les mêmes, voyez-vous? C'est un défi. Mais on sait que l'étape un peu de déception, de légère déception, n'est pas l'étape finale. Évidemment, plus l'étape d'exaltation elle est élevée, plus les gens volent haut, plus l'atterrissage est catastrophique dans la phase de déception. OK, on passe de ce pôle-là à ce pôle-là. Puis il y a des gens que c'est pas aussi intense que ça. Il y a des gens que c'est beaucoup plus tempéré parce que dans la phase d'exaltation, ils n'étaient pas si exaltés, cela. Vous venez comprendre que moi, j'avais beau être en amour, j'ai du kilométrage dans ma vie, puis j'ai de l'expérience, donc on retient notre cheval un peu, on dit on va se calmer, il y a des éléments quand même à réfléchir dans tout cela, c'est complexe. Mais la phase de déception doit nous mener à une troisième phase qui s'appelle la phase de maturation. Et la phase de maturation, c'est là où les choses doivent se corriger. Je dis souvent aux gens, aux hommes, ta femme s'appelle peut-être pas Jane, mais toi, tu t'appelles pas Tarzan. OK? Donc, remettons les choses, parce que dans le jugement qu'on fait de l'autre, on fait un jugement qui est souvent basé sur la valeur. Elle n'est pas comme je voudrais. Est-ce que tu es comme elle voudrait que tu sois? OK? Et je vais faire un pas en arrière sur la transformation. Je peux vous poser une question ce matin? Levez la main droite. Petite pasteur Denis, je promets de dire toute la vérité. Rien que la vérité, juste la vérité. Je peux vous poser une question? Vous allez répondre? Toute la vérité? Toute la vérité? Vous n'avez pas l'air convaincu. Là, vous dites, là, mais où il va nous emmener? Là? Okay. Quels sont ceux parmi vous? L'œil de Dieu vous voit. Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà tenté de changer leur mari ou de changer leur femme? Allez, s'il vous plaît, c'est universel. Je ne parle pas de changer de mari ou de femme, je parle de changer votre mari ou changer votre femme. Okay. Tout le monde, hein? Quels sont ceux qui ont réussi? Allez, quels sont ceux qui ont réussi? Tu as réussi à changer ton mari? Tu l'as transformé, tu l'as mis à ta main? Qu'on se parle, toi et moi. Elle connaît la recette. Elle était une exception. La réalité, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. Il va changer, on ne peut pas changer l'autre. On peut se changer soi-même. Je peux travailler sur ma personne. Par contre, le côté fascinant, c'est quand je me mets à changer, et bien, là, on se met à changer. Voyez-vous? Donc, il y a un processus qui s'est fait. Celui sur qui j'ai le pouvoir, c'est sur moi. Seigneur, transforme-moi. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois, pour que mon mariage devienne ce que toi, tu veux qu'il soit. Et fait de cette relation ce qu'elle doit être pour qu'on puisse s'épanouir ensemble selon le plan que tu as pour notre vie. Le mariage, c'est une invention et c'est l'intention de Dieu. Donc, dans la phase de maturation, c'est là qu'on travaille aux choses sérieuses. On va faire de ce mariage ce qu'il doit faire. En gardant l'esprit, encore une fois, que votre mariage ne peut pas être plus que vous. Il ne peut pas être meilleur que ce que vous êtes. Voyez-vous? Il y a quelques années de cela, j'étais à mon bureau et je travaillais avec un couple de gens bien, de gens bien établis dans la vie, très belle profession et tout cela. Mais leur mariage allait vraiment, vraiment, vraiment mal et c'était un couple qui se disputait beaucoup. À raison d'une fois par deux semaines, je les voyais et j'ai travaillé fort. avec eux. Puis ça évoluait, ça progressait, j'étais super content. Puis un bon matin, le couple arrive devant moi et la femme découpait une grenade. Ça veut dire dans notre langage, c'est qu'elle elle dit quelque chose que tout fait sauter. Donc elle l'a piqué sur quelque chose, donc elle l'a humilié dans mon bureau. Et là, j'étais découragé parce que tout le travail qui était accompli, c'est comme retour à la case départ. Et là, je suis là, puis je vous annonce que j'étais quand même un peu irrité à l'intérieur de moi vers la dame. Pourquoi elle a fait ça ce matin? Mais d'un autre côté, si elle a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose de pas réglé quelque part. Donc je demande à cet homme, à son mari, allez m'attendre à côté dans la salle d'attente. Je veux juste parler avec votre épouse. Et là, j'ai pris une discussion avec elle. Écoutez bien la discussion. Madame, qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ce que vous avez dit. Puis, et là, je dis, madame, est-ce que vous croyez au mariage ou non? Ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Puis elle me répond, oui, j'y crois, mais pas avec lui. Oh my God. J'ai eu la révélation. Le mariage, là, c'est pas une chose. C'est pas un objet. Le mariage, c'est une sorte de relation. Suivez-moi bien. Dans la vie, on est des êtres de relation. Il y a différents types de relations que les êtres humains établissent. On a des relations de travail. Est-ce que le mariage est une relation de travail? Non. Patronale syndicale? Père-fille, mère-fils? Frère-sœur? Amis? Non, on ne couche pas avec nos amis. On peut avoir de l'amitié, mais c'est pas une relation d'amitié, même s'il y en a dedans. Colocataire? C'est une relation matrimoniale. C'est un type de relation. Ça veut dire qu'un jour, nous avons choisi et pris la décision de vivre notre vie avec cette personne. C'est une sélection. Il y a plein de possibilités que vous aviez autour de vous. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez décidé que c'est lui que je marie et c'est elle que je marie. Maintenant, je sais que ce n'était pas hyper conscient, là, par le fait qu'on ne voit pas tout, bien sûr. On a choisi cela. Et cette relation, ce lien matrimonial, cette relation, si on s'investit dedans, on va avoir des résultats. OK? Donc, comprenez-vous que c'est la même chose que pour des parents avec des enfants. Si on passe du temps avec nos enfants, on se lie, on s'attache à eux, puis il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien d'attachement qui est très, très, très fort. Mais ce lien-là, c'est même à la limite pas aussi fort que le lien du mariage. Voilà pourquoi, quand arrive une rupture et un divorce, c'est tellement douloureux. Certains d'entre vous, peut-être vous avez vécu ça. C'est un déchirement, c'est une blessure, c'est un deuil, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on a coupé quelque chose. Et la réalité, c'est qu'il faut mettre nos énergies à éviter cela. Maintenant, comprenez bien que moi, si je ne suis pas dans la pensée du tout, il faut rester marié à tout prix, bien qu'on soit en train de s'entretuer. Je ne crois pas que le mariage, c'est ça. Je crois que le mariage, c'est une relation d'amour dans laquelle on s'investit mutuellement pour faire de cette union-là ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire une expérience épanouie. Voyez-vous? Je sais que Dieu a eu le divorce, mais je sais que Dieu n'aime pas plus les mariages où ils sont en train de s'entretuer et de se blesser pendant des années et des années et des années. Okay? L'idée dans tout cela n'est pas nécessairement de mettre fin à cela parce que ça va mal, mais de résoudre les problèmes qui sont en place. Écoutez bien ce que je vous dis. 80% des problèmes matrimoniaux se règlent. La réalité, 80% des couples qui ont des problèmes ne font rien pour les résoudre les problèmes. Ils ne lèvent pas le petit doigt pour sauver cette union-là. Est-ce que vous me suivez? Et la maladie qui affecte la plupart des mariages, ce n'est pas une maladie qui mène à la mort. OK? C'est une gastro, on pense mourir, mais on n'en meurt pas. OK? Ça peut être mal en point, ça peut être un gros. Je sais qu'il y a des problèmes dans le mariage. Regardez-moi ici un instant. Si. Monsieur, là, OK? Quel est votre prénom?
Yvan.
Yvan, on va se mettre en situation, toi et moi. Disons que je suis médecin, je suis ton médecin personnel. Tu viens me voir au bureau, tu dis, docteur, j'ai mal à la jambe. Régent, tu m'as dit? Régent, ton nom? Yvan, excuse-moi. Docteur, j'ai mal à la jambe. Yvan, peux-tu qu'on va le régler une fois pour toutes ton problème? On va te la couper ta jambe. Okay. Bon, si tu es moindrement intelligent, tu vas dire, excusez, docteur, peut-être une autre solution avant de couper la jambe, là. Physiothérapie, passer une radiographie, j'ai dit quelque chose, c'est musculaire, c'est mon os, c'est mes médicaments, c'est, je sais pas c'est quoi, trouvez-moi de quoi, j'ai besoin d'antibiotiques. On va évaluer plusieurs options avant d'arriver à l'option finale. Parce qu'en fait, ça va régler ton problème, mais ça va t'en créer de nouveau. On va prendre le marché de façon unijambiste. Vous voyez un peu ma pensée. Pourquoi, quand il est question du mariage, la première solution qui monte à la surface, je vais te quitter. Moi, je vais m'en aller, je me casse, je me sauve, on termine ça. Est-ce qu'on peut résoudre des choses à la place? Est-ce qu'on peut, si cela a de la valeur, que le mariage soit honoré, si dans nos, surtout comme nous, comme chrétiens, comme si nous, c'est quelque chose qu'on valorise, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose au travers de tout cela? Et croyez-moi que la plupart des couples qui décident de faire une démarche sérieuse pour sauver leur mariage, pour faire de cette union, pas juste sauver dans le sens de préserver, là, mais de faire en sorte que ce mariage devienne une expérience épanouissante, mais ils réussissent. Est-ce que c'est facile? Non. Ça dépend encore une fois des mariages et des couples et des problèmes auxquels ils ont fait face. Mais si on garde à l'esprit que dans ces tentatives de rétablir les choses, si on met l'énergie nécessaire, on va être capable d'en venir à bout parce que, bien sûr, Dieu est avec nous. Et c'est son intention. Dieu ne me laisse pas tout seul face à la vie, face à aux contraintes de la vie, face à ses défis et face aux défis de cette vie à deux. On est dans la réalité dans tout cela. Donc, il faut être capable de comprendre cette réalité. Regardez bien cette prochaine diapo. Ces unions, c'est un auteur qui s'appelle Alfred Adler qui a dit ça un jour en parlant du mariage. Ces unions sont des exemples véritables de l'amour, ce type d'union, d'un vrai mariage. En fait, il observe un type de relation. Ces unions sont des exemples véritables de l'amour d'un vrai mariage dans lequel une décision inaltérable a été prise. Si les hommes et les femmes contemplent une façon de s'échapper, ils ne rassemblent pas toutes les forces requises pour ce grand défi. Devant les défis de la vie, nous ne nous préparons pas notre fuite. Nous ne pouvons pas aimer et se limiter. Dites, wow! Opa! Faut que je m'engage, faut que je me consacre, mais si je m'investis. Puis vous savez, c'est d'entre vous, dans votre boulot, c'est ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être un homme d'affaires et vous investir à moitié. Tu te plonges ou tu sinon, ça ne marchera pas. Dans n'importe quelle profession, même dans un hobby, même dans un passe, on s'investit dans quelque chose. Alors, il n'y a plus beaucoup de clubs, et ça, c'est la culture moderne qui est comme ça. On s'investit, mais on se garde une marge de manœuvre. Voyez-vous? Et ce mariage ne devient pas ce qu'il doit être, parce qu'on ne s'investit pas dedans comme on devrait s'investir. On ne s'engage pas envers cette réalité. Principe, vous n'obtiendrez pas le mariage que Dieu veut que vous ayez. Vous n'obtiendrez pas plutôt le mariage que vous désirez à moins de tout faire pour le préserver. À moins de tout faire, mettre vos énergies pour le préserver. Le mariage, c'est une belle expérience dans la vie. Je reprends un peu ce que j'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, ce matin. Je sais qu'on est à contre-courant. Il y a des facteurs dans notre société qui bombardent les mariages de façon à ce que ça devienne quelque chose de légèrement inconfortable. Mais vous devez savoir que nous, avant toute chose, on est chrétiens. Et être chrétien, ce n'est pas une valeur diminuée dans ma vie. C'est une valeur ajoutée à ma vie. OK? Et dans ce sens-là, ce que je construis dans ma vie, ce que je construis dans mon foyer, devient aussi un témoignage face à tous les gens qui nous regardent autour de nous. Donc, à la fois, il y a deux angles. Il y a l'angle de « faut que je m'épanouisse », mais il y a l'angle aussi que les gens me voient dans ce que je vis. Les gens me voient dans ce que je vis. Vous savez, quand les gens savent que vous êtes chrétien, immanquablement, vous êtes sous le scan. Ils vous observent. Parce que les gens la recherchent, cette vie. Ils recherchent une vraie vie. Les gens mariés regardent à des mariages, surtout quand ils sont malheureux, ils regardent au mariage autour d'eux. Donc, on a un défi, mais je ne dis pas ça pour mettre de la pression sur vous, en gardant juste en perspective les différentes étapes que je vous ai mentionnées. J'ai besoin d'être transformé. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je fasse ce que tu veux que je fasse et que j'aie en retour ce que tu as pour moi. Il faut que je sois transformé. Et c'est Dieu qui va le faire. On va être transformé individuellement, puis deux personnes, hommes, femmes, transformées, portant maturité de fruits d'esprit, ils vont faire un mariage rempli d'amour, de joie. Il y a de la paix dans cette maison et tous les ingrédients qui nous amène vers la transformation. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, de fermer les yeux quelques instants? Juste terminer un mot de prière. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Merci pour cette occasion aussi de nous rappeler ton intention et ton invention. Que c'est toi un jour, dans ta sagesse, dans ton grand amour, de te chercher une façon à ce que nous, comme êtres humains, on soit comblés. Tu voulais qu'on le soit dans notre relation avec toi, mais cela ne suffisait pas. Tu voulais aussi qu'on soit dans nos relations mutuelles, réciproques, l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Comme humains, et comme couple, et comme famille aussi. Seigneur, tu vois tous ces gens que moi, je ne connais pas. Tu vois ce matin leurs besoins, tu vois les difficultés qu'ils ont fait face, tu vois les blessures du passé, tu vois les déceptions. Mais là, ils sont confrontés à une autre étape dans leur vie, une étape où ils devront mûrir et maturer, faire de leur mariage que toi, tu veux qu'ils soient, de travailler, non pas à amener le mariage à ce qu'il était, mais à ce qu'il doit être. Un état honorable devant toi, dans lequel on s'épanouit pleinement. Voilà pourquoi, par la présence de ton esprit ici, en ce lieu, en ce moment, une portion de ton peuple est réunie ici ce matin. Je prie que tu fasses cette œuvre, que tu ranimes la flamme, que tu génères de l'espoir en eux, l'espoir de voir les choses changer, et évoluer et progresser. Seigneur, je prie en ce moment que tu touches leur cœur. Que même si certaines personnes ce matin avaient l'intention de dire, là, c'est la dernière chance que je donne, je vais là aujourd'hui, bien, si ça ne marche pas. Mais qu'en ce moment, ils puissent se dire, non, Seigneur, je te donne une chance, mais je travaille. Je n'aime pas le mot chance. Je te donne l'opportunité, Seigneur, d'agir dans ma vie, et je prends l'opportunité qui est devant moi de travailler à changer et à devenir cet homme et cette femme que tu veux que je sois, puis à travailler à me consacrer à ma femme, qu'elle devienne ma priorité, mon mari qui devienne ma priorité, non pas toute autre chose autour, et à ce mariage qu'on va tout faire pour préserver, Seigneur, afin qu'on puisse s'épanouir et qu'en retour, tu en sois glorifié et honoré. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié maintenant. Amen, amen, amen. Et amen.
Alléluia. Merci, Denis. Tu es encore avec nous, hein?
Oui, non, je me sauve pas.
Alors, tu ne te sauves pas. Est-ce que tu aimerais être en bas un peu avec moi?
Oui.
Si,
je suis en sécurité. Moi, ça me ferait peur qu'on se voit.
Ah oui.
C'est...
Ouais. Oui. Diapo?
La dernière ben, diapo qui était là?
C'est une période de questions maintenant. On va poser des questions. C'est une question?
Non, il veut
juste. C'est pas une question. Il veut voir le diapo.
Mais la dernière diapo.
Il veut prendre des notes, l'avant-dernière diapo. Donc, OK. Alors, donc, Denis me disait qu'il voudrait être en bas ici pour être proche de vous. J'ai dit non, la condition, c'est de rester en haut. Tout le monde reste en haut ici. Alors, maintenant, comme c'est la période des questions, on va le laisser descendre parce qu'il va être un peu proche de vous. Ça peut aller comme ça? Alors, il y a une période de questions-réponses. Nous savons que nous sommes entre nous, ici, couple. On n'est pas là pour dire que, bon, il ne va pas faire la thérapie des couples ici, ce matin-là. Hein, tu comprends?
Non.
Parce qu'il a un bureau. Si vous voulez faire la thérapie, là, l'entretien-là, vous prenez rendez-vous avec lui, vous partez chez lui à son bureau. Mais ici, on aimerait poser des questions. On aimerait que vous posiez des questions qui vous tient à cœur, que vous pensez que ce serait bon pour vous-même, mais pour l'ensemble. Si Denis a la réponse, ben, il va répondre. S'il n'a pas la réponse, ben, on va remettre pour une autre fois. Ça peut aller comme ça?
C'est bon.
OK. Que je te donne une chaise pour que si tu veux t'asseoir.
C'est bon.
OK, parfait.
Soyez pas timide non plus. OK. Des fois, je voudrais parler d'un problème, mais dites que votre beau-frère ou votre belle-sœur vit quelque chose, puis on saura que c'est pas vous, simplement. OK? Ou j'ai une de mes copines, ou j'ai un de mes amis qui, bon, on saura.
C'est beau.
Ça peut être des questions d'ordre général. Oui, vas-y.
Ouais. Oui. Oui.
OK. Il y a eu une rupture de communication parce qu'il y a eu des blessures, parce que des paroles qui ont été dites et tout ça. Vous savez le phénomène qui se passe après avoir bien mangé? Je vais vous regarder d'en haut et je vais vous voir un peu lutter contre le sommeil. Certains vont dormir comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va changer la donne cet après-midi. Vous allez vous tenir debout. Moi, je vais m'asseoir. Et si je m'endors... Donc, on va aborder un sujet, je crois, assez pratique cet après-midi. On va répondre un peu à la question « Comment résoudre les problèmes récurrents inhérents à la vie à deux? » Lorsqu'on fait des conférences, lorsque les gens posent des questions, lorsque je rencontre d'autres personnes, des pasteurs, ils me posent toujours la même question. Quel est le problème le plus souvent rencontré chez les couples? Dans la plupart du temps, ils s'entendent d'avoir des réponses comme la communication, telle que j'ai mentionné ce matin, ou conflit, ou éducation des enfants, ou les finances et tout ça. Puis je dis non, c'est aucune de ces réponses. Le problème que je rencontre le plus souvent, c'est l'usure. Les couples sont usés. Ils sont usés parce qu'ils n'ont pas réussi au fil des années à régler les problèmes qu'ils avaient à faire face. Donc, ils tournent en rond dans plein de situations sans que ça se règle jamais. Ils répètent des conversations et des discussions qu'ils ont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans sur des situations qui se sont passées dans le passé, qui n'ont jamais réussi à dénouer. Et vous savez, tout ça à la longue, et tous les problèmes auxquels les couples peuvent faire face, à la longue, ça use. Ça use, c'est comme si on s'épuise. J'utilise souvent l'expression que je peux pas utiliser en Europe parce qu'ils comprennent pas ce type d'expression. Quand on dit pédaler la chaîne débarquée, vous savez ce que ça veut dire comme Québécois? T'as beau pédaler, t'es pédale, tu t'épuises, mais t'avances pas du tout parce que ta chaîne est pas sur l'embrayage, n'est pas sur le... Donc, l'idée dans tout ça, c'est de commencer un petit peu à comprendre ce qui se passe. Dans un ordre d'idées, donc, ce qu'il faut, et je reprends un peu la pensée que je pourrais être toujours en continuité avec ce que j'ai dit ce matin, les problèmes sont faits pour être résolus. Il y a des solutions dans la vie aux problèmes. Dieu, il est là. J'ai une approche qui est très peu magique. OK? Il faut quitter l'image de on va faire confiance, on va prier. Bien sûr, il faut faire confiance à Dieu. Bien sûr qu'il faut prier. Mais souvent, ce sont des échappatoires parce qu'on n'a pas de solution tangible et concrète face à la situation. Donc, il faut trouver des stratégies. Dans le même ordre d'idées, quand on regarde ce qui se passe dans la vie du couple et cette usure-là, bien allons que ça amène l'érosion des sentiments et des émotions. Ce dont, ce matin, on faisait allusion dans les questions qui ont fusé. Maintenant, on va tenter de comprendre un petit peu, je vais vous expliquer un principe qui, je pense, que si vous le saisissez, que vous le mettez en pratique, ça peut changer un peu le cours de votre vie à deux et tout ça. Le paradoxe du mariage et de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. On dit souvent à la blague que la première dispute qui a eu lieu entre Adam et Ève, c'est sur ce texte, et les deux deviendront une seule chair. Alors la question s'est posée, quelle chair on va devenir, la tienne ou la mienne? Okay? La réalité, c'est que c'est une fusion, c'est une amalgamation, c'est vraiment une union qui va donner naissance à quelque chose, mais qui ne se fait pas au détriment de notre propre personne. Ce matin, j'ai parlé beaucoup de transformation, mais ça va vous dire que parfois le mariage ne transforme pas. Je dis souvent à la blague, le mariage transforme ou le mariage déforme, mais il ne laisse pas personne conforme. Mm-hmm. C'est fort, hein? Mm-hmm. J'aurais pensé que j'aurais fait la vague avec ça. Là, effectivement, il y a parfois des gens qui, puis j'en ai rencontré dans mon travail, qui, après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, ils sont perdus, ils sont déformés, certains disent, je sais même plus ce que j'aime, ce que je veux. Et souvent, ce qu'il y a dans ce moment-là, c'est que un des deux a submergé l'autre, un peu comme si l'un disparaît au profit de l'autre. Voilà pourquoi cette phrase, elle est intéressante. C'est évident que c'est un paradoxe, dans le sens que c'est à la fois un phénomène un peu mystérieux, un peu complexe. Comment on peut devenir un tout en restant deux? Mais en fait, c'est cela. Moi, je viens d'une époque où il fallait disparaître un petit peu. On devient un, puis on n'existe plus. En fait, nous demeurons deux unités séparées, mais dans une union harmonieuse. On est basé sur la confiance, sur la fidélité et tout cela. Donc, on ne se perd pas. C'est pas. Si vous regardez chez vos amis, chez les gens de ce monde autour de nous, de la société qui parle du mariage, on parle toujours du mariage comme étant un effet négatif. Ah, tu vas te mettre la corde au cou. Enfin, ah, tu as perdu ta liberté. Dors bien cette nuit, c'est la dernière nuit que tu dors en paix. Il y a tout ça, toutes ces blagues-là, OK? L'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue. Il y a toujours une connotation. Toutes les blagues ont une connotation un peu négative, voyez-vous? Le fils qui demande à son père, « Papa, ça coûte cher se marier? » Son père lui répond, ça fait 40 ans que je paye, je ne sais pas. OK, comment ça coûte? vous voyez, c'est toujours des connotations négatives. Puis à un moment donné, c'est toujours un des deux qui est mal en point, tout cela. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver un équilibre au travers de tout cela. Moi, je crois à l'épanouissement de nos personnalités. Je crois qu'on peut être transformé, on peut progresser, évoluer. Puis je vous dis, les mariages, c'est comme plein d'autres éléments dans la vie. C'est comme même parfois des églises. Il faut que ça évolue dans le temps. On ne peut plus rester coincé dans des dimensions du passé. Les enjeux changent, les défis changent, il faut s'ajuster à tout cela. Mais souvent, surtout dans nos milieux, on essaie de faire l'éloge du passé, Le passé était là. Ceux du passé, ceux qui étaient là à l'époque, ont eu à relever les défis qui étaient dans le contexte de leur, de ce moment-là, de cette étape-là. Nous sommes dans un autre niveau. Il faut faire nos mises à jour, nos mises à niveau. Windows 3.1, ça ne marche plus. Faites vos mises à niveau sur votre ordinateur. On est rendu à 10, là, OK? Si vous êtes adepte d'Apple, que Dieu vous bénisse. Mais le principe, c'est qu'il faut faire nos mises à jour. Maintenant, toutes les marques, il faut faire nos mises à jour. Et c'est comme ça qu'on se tient à la même dimension. Et malheureusement, pour le mariage, il n'y a pas de téléchargement qui se font avec une clé USB dans notre cerveau. Il faut qu'on fasse nous-mêmes notre mise à jour. Donc, le défi, encore une fois, c'est toute cette question de l'usure, c'est à quoi je fais allusion, et la dimension de l'amour. Et vous savez, ce matin, vous vous rappelez, il y a eu une question, la jeune dame derrière, elle a disparu, mm-hmm. Et puis là. Non, celui qui avait, son mari avait une barbe, là, 40
oui,
ans.
Voilà, ça,
ah, elle est là, OK, excuse-moi. hein? T'as encore ta barbe?
il a gardé sa barbe.
Encore. OK. la question sur l'amour, est-ce que l'amour, on ne s'aime plus encore et tout ça. Et c'est certain que c'est une autre des questions qui est souvent répétée. Est-ce que l'amour peut partir et ne plus jamais revenir? La réponse est oui, mais plus jamais revenir, pas nécessairement, ça dépend de ce que vous allez faire. Donc, il faut quitter, vous savez, il y a une espèce de discours populaire où on se raconte toutes sortes d'anecdotes dans le genre, oui, l'amour peut partir, mais que veux-tu, on a cessé de s'aimer, et pourquoi se déchirer si on ne s'aime plus? Vous entendez chez vos amis ce genre de discours. Bon, maintenant, attendons-nous. Et c'est la perspective chrétienne. Croyez-vous sincèrement que Dieu a institué le mariage pour que ça dure un temps dans la vie?
Non.
Puis après ça, c'est terminé. Écoute, on s'est aimé pendant 20 ans, ma chérie. C'est super. Mais maintenant, nous sommes arrivés au bout. Nous avons consumé tout notre amour. Et maintenant, tout le feu s'est éteint. Va de ton côté, gérer du mien. Et on recommence à zéro?
Non.
Le mariage, c'est pour la vie.
Amen.
OK? Et donc, il y a des saisons, évidemment. Amen. Il y a des défis. Il y a des étapes dans tout cela. Du début du mariage, aux enfants qui quittent et se retrouvent à la retraite. C'est une basque fresque qui nécessite effectivement qu'on s'investisse et qu'on, bien sûr, encore une fois, je le répète, qu'on fasse nos mises à jour. Dans ce sens-là, toute la dimension des émotions est quelque chose d'important. On a, regardez bien la prochaine diapo. On a à l'intérieur de nous un réservoir, ce qu'on appelle le réservoir émotionnel intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, vous êtes d'accord avec moi, c'est comme quelque chose qui est en dedans. D'ailleurs, on le sent ici, mais évidemment, c'est pas ici, c'est dans le cerveau, c'est-à-dire c'est des neurones et tout ça, mais on sent que les émotions, par exemple, lorsqu'on a peur, on sent que ça se loge ici, c'est le fait de notre nature humaine, de notre corps humain, toute la physiologie et tout ça qui fait qu'on ressent les choses, on est capable d'éprouver des choses. Donc, à l'intérieur de nous, on a des émotions. Ces émotions-là peuvent s'amplifier, peuvent diminuer, dépendamment de ce à quoi on en fait face. Par exemple, en ce moment, je pourrais éveiller des émotions en vous. Je pourrais me mettre à crier, à vociférer, à vous faire accroître quelque chose, puis à vous manipuler. Vous verriez des émotions. Les gens les plus émotifs, les plus effrayés, les plus fragiles, ils réagiraient fortement. On n'aurait pas tous les mêmes réactions, mais on peut jouer dans les émotions. On peut être éveillé dans nos émotions. On le fait lorsqu'on écoute un film. Vous écoutez un film de filles, mesdames, là. Ah, c'était beau, j'ai pleuré. Mais en fait, vous savez que souvent, c'est même pas une vraie histoire. Et si c'est une vraie histoire, c'est des acteurs qui jouent un rôle. C'est pas la réalité. C'est imaginé et tout ça. Mais on éprouve des émotions parce que la scène des vidéos éprouve des émotions. Même chose pour nous, les gars, quand on écoute des films de James Bond, des films plus masculins et tout ça, on vit des émotions, on a la tête dans l'écran. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vit quelque chose. Alors, imaginez les émotions qu'on peut vivre lorsqu'on est en relation l'un avec l'autre. Donc, on s'influence réciproquement. Le fameux lien d'attachement qui existe entre nous, entre un homme et une femme, imaginez-le comme un boyau ou un tuyau d'approvisionnement où il passe quelque chose à l'intérieur. Donc, on s'insuffle l'un à l'autre quelque chose. Donc, la relation, si je vais vous poser la question de quoi est constituée une relation, mais plus que tout, une relation, c'est constituée d'émotions, de ressentis, de quelque chose qu'on éprouve. Donc, pensez à quelqu'un qui vous a blessé. Juste le fait d'imaginer, vous allez éveiller une émotion à l'intérieur de vous. Ça peut être de la rancœur, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être, de la nostalgie. Pour vous, la représentation de quelqu'un éveille en nous non seulement des images, mais aussi une émotion à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée-là? Mais il y a, non, vous ne me suivez pas, mais je vais recommencer. OK? À l'intérieur de l'être humain, il y a comme un réservoir. OK? Donc, essayez d'imaginer ça, puis je pense que vous saisissez un peu ce à quoi je fais allusion. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut vider ce réservoir comme on peut le remplir. En fait, lorsque je parlais de deux œufs il y a quelques instants, je fais allusion au fait que le réservoir est vide, mu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Regardez bien la prochaine pensée. Plus un couple pose des gestes concrets, j'ai qualifié ces gestes de dépôt, comme un compte en banque. Pour investir dans le mariage, mieux celui-ci se portera, chacun des conjoints nourrira des sentiments positifs et agréables. Donc, c'est une alimentation. Cette alimentation dans le mariage se fait par quoi? Se fait par des gestes concrets. Ça se fait par, bien sûr, par des paroles, ça se fait par des... Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez sûrement le livre « Les langages d'amour » de Gary Chapman. Ça se fait par des dépôts de cette façon-là. Moi, quand ma femme m'achète 20 kilos de parfum, ça ne changera pas ma vie, c'est pas mon langage d'amour. Ça m'achète 20 livres, ça va être mon langage d'amour, voyez-vous. Donc, mais si je jette tous les parfums que sa planète, elle va être super heureuse. Mais livre, ça éveille rien, voyez-vous. Donc, faut développer un peu ce qui intéresse l'autre personne pour faire des bons dépôts à ce niveau-là. Mais c'est pas sur ce point-là que je veux davantage insister. Je veux davantage insister sur le fait qu'il faut faire des dépôts. Lors des fréquentations, lorsque, comme je le mentionnais ce matin, on en fait des dépôts, là, en termes de temps, en termes de gestes, en termes de galanterie, en termes de plein de choses. On pense à l'autre, puis on investit dans l'autre. Dans le mariage, après coup, souvent, ce qui arrive, c'est que les dépôts cessent. On surfe un peu comme toujours sur la même vague, en s'imaginant qu'elle ne s'arrêtera jamais, mais on arrête de faire des dépôts. Et parfois, c'est pas de façon malfaisante, c'est pas par rancœur, c'est par préoccupation, l'effervescence de la vie. Quand les enfants arrivent, on se néglige parce qu'on est plus absorbé par les demandes des enfants. Vous l'avez vécu comme quoi, parfois, on a eu 2-3 enfants, l'école, les dodos, les couches, les... À un moment donné, on se perd de vue. On est tellement monopolisé par la tâche, l'ampleur de la tâche, et il faut financer tout cela aussi, que, comme vie de couple, on se perd. Ici, en plus, on peut pas aller en vacances ensemble, on ne peut pas prendre, à la limite, des week-ends ensemble seuls pour se retrouver, mais on se perd en cours de route et on cesse les dépôts. Encore une fois, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est plus capable aussi. Et dans la vie moderne, le style de vie que nous vivons, puise beaucoup de notre énergie. On s'épuise dans tout cela parce qu'on est trop sollicité de tout bord, de tout côté. Okay? Donc, les gens arrivent à la maison le soir, en ce moment, depuis déjà peut-être plus d'une vingtaine d'années, pour réussir à vivre décemment sur le plan financier comme pouvaient le vivre nos parents, ça prend 2 salaires. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est les enfants... Je regarde mon fils aîné. On dit lui, il a modifié un petit peu sa vie récemment, mais les deux enfants à la garderie, sa femme travaille, lui travaille, sont toujours dans une effervescence constante. Ils n'arrêtent jamais, du matin jusqu'au soir. Moi, je les regarde faire, puis je dis, ouais, je voudrais plus vivre. Je voudrais plus avoir des enfants à ce stade-ci de ma vie. Vraiment, j'ai l'âge, bien évidemment. Mais c'était moins stressant déjà il y a une vingtaine, 20-25 ans. Il y a des régions plus stressantes que les autres. Vous imaginez ceux qui sont à Montréal, qui sont pris dans les bouchons soir et matin. Voyez-vous tout le temps qui est perdu et qui littéralement vide la personne humaine. Et après ça, il faut se réinvestir plus. Ils sont plus capables. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai plus de jus. Je suis plus capable, voyez-vous. Donc, faut parfois aussi réfléchir à notre style de vie, à ce qui sape nos énergies comme ça, parce qu'à la longue, c'est ce qui va affecter notre mariage. Donc, je reprends ici ma pensée. Plus un couple pose des gestes concrets, des dépôts pour investir dans le mariage, mieux celui-ci se portera et chacun des conjoints nourrira des sentiments positifs et agréables. Vous avez bien vu, j'ai marqué qu'un couple pose. Ça veut dire que il ne faut pas que ce soit seulement une personne. Et là, écoutez-moi, vous, je sais que les couples, bon, souvent, sont débalancés. Il y en a toujours un qui en fait plus que d'autres, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans la communication, on le mentionnait ce matin, que ce soit dans d'autres domaines. Tentez d'équilibrer cela. Ça ne peut pas être toujours le même qui investit et qui fait ses dépôts. C'est un peu comme un compte en banque. Si vous déposez tous les deux, là, ça va monter vite. Hein? C'est toujours le même qui dépose. Puis souvent, l'erreur qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui dépose, l'autre fait des retraits. Donc, ça reste toujours au même niveau, voyez-vous? Moi, je dis souvent à la blague, c'est ça un compte conjoint. Moi, je fais des dépôts, ma femme est des retraits. Ah, c'est macho comme blague. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui se passe aussi sur le plan du réservoir émotionnel. Vous me suivez dans cette pensée? Allez, mon ami. OK. Le réservoir émotionnel intérieur, toujours, c'est ça, c'est en plein ça. Regardez bien ici cette diapo. Plus un couple pose des gestes malheureux, malencontreux, ou ne s'investit pas dans la relation, ou simplement ne fait rien pour corriger une situation, plus les sentiments vont disparaître, plaçant ici le mariage au bord de la faillite. Donc là, vous voyez, il y a des fuites dans le réservoir. L'eau se perd. L'eau se perd parce qu'il y a plus de retrait que de dépôt. Et qu'est-ce qu'on entend par retrait? On entend, vous allez voir dans quelques instants, je vais vous le montrer, on entend toutes sortes de choses que les couples font qui, au lieu de construire le mariage, sabotent en grande partie la relation. Parfois, certains vont le faire de façon délibérée, parce qu'ils veulent un peu, encore une fois, sont pas bien dans cette relation, puis ils veulent plus s'investir. Puis des fois, ils vont le faire de façon inconsciente, des oublis. Par exemple, je dis toujours aux hommes, vous devez retenir un minimum de dates dans une année. OK? Quelle est la première date qu'ils doivent retenir? Date de mariage. Deuxième date. Anniversaire de naissance. Troisième date. Saint-Valentin. Quatrième date. Non, les enfants, oui, c'est super, mais pour le couple. Hein? Vous êtes arrêté à deux? Là, on va aller hypothéquer à la maison, c'est ça? Quatrième date. Fête des mères et des enfants. Cinquième. Noël, effectivement. Et là, messieurs, écoutez-moi bien. Là. Écoutez tonton Denis, là. Écoutez-moi. OK? Si votre femme vous dit à sa fête, à la Saint-Valentin, une de ces cinq dates-là, cette année, on se fait pas de cadeau, vous ne l'écoutez pas. OK? C'est un piège, OK? Il y a plein de gars qui disent, ouais, mais je viens d'acheter à ma femme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tout le monde aime recevoir quelque chose, vous n'êtes pas obligé de la couvrir d'or. Ben, si elle veut absolument, vous pouvez la couvrir d'or si vous voulez. Mais ça va coûter cher. L'idée, c'est toujours, voyez-vous, de faire des dépôts. Et c'est l'inverse aussi pour les femmes envers les hommes. OK? Dans plein de choses, il faut pouvoir s'investir. Donc, plus un couple pose des gestes malheureux ou ne s'investit pas dans la relation ou simplement ne fait rien pour corriger une situation, plus les sentiments vont disparaître. L'érosion, l'usure, ça va disparaître, vont s'éteindre. Les réservoirs se vident peu à peu. Les retraits. Lorsqu'il y a plus de retraits, à la limite, là, c'est très mathématique. Lorsqu'il y a plus de retraits que de dépôts, et ce, sur une longue période de temps, on peut être assuré que le mariage s'en va vers un échec certain, ce qu'on appelle la faillite. OK? Parce qu'il y a plus de retraits que de dépôts. Dans le même ordre d'idées. Par contre, même avec un mauvais départ, plus un couple décide d'investir massivement dans leur relation, plus ils peuvent s'assurer de renflouer leur compte de banque d'amour et de trouver ou retrouver le chemin d'épanouissement de l'harmonie conjugale. Donc, c'est un peu dépôt-retrait. Donc, quand je rencontre un couple la première fois et que je fais un petit peu leur historique de vie, je regarde ce qui s'est passé, tout ça, parfois certains sont dans leur marge de crédit, puis certains ont bouffé leur marge de crédit. Ils sont, comme on dit, en bon québécois, ils sont à côté. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le budget, littéralement, mais le budget émotionnel de la situation. C'est-à-dire qu'il faut regarder où sont les fuites. On va en parler dans quelques instants. Quels sont les retraits? Quelles sont les choses qui font en sorte qu'on tourne en rond, qu'on ne s'investit plus et que nos émotions commencent à quitter? Quels gestes ont été faits? Parce que rappelez-vous toujours qu'au départ, vous vous aimiez d'un amour fou. T'es passionnément amoureux l'un de l'autre. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est simplement l'habitude? Je ne conçois pas que c'est simplement la question d'habitude et le temps. C'est pas le temps pour le temps. C'est que dans tout ce temps, il s'est rien passé, puis il n'y a pas eu d'investissement de fait. Et si vous regardez des couples qui fonctionnent bien, ils sont toujours dans un mode assez actif. OK? Ils ont toutes sortes de petits détails. Ils ont même des rituels. Le vendredi soir, c'est notre soirée. On a une sortie où on peint. Brioche, pas bien, mais pain, fromage, petite bouteille de vin, on s'investit dans nous autres, les enfants sont chez des amis ou sont allés au groupe de jeunesse. Vous voyez, ils préservent cela, donc ils font constamment des dépôts. Et c'est intéressant parce que ça les évite. Vous savez, il y a moins de stress à faire des dépôts puis à vivre au-dessus de la marge de crédit que de faire des dépôts pour rembourser des choses. Le stress de rembourser, que ce soit les cartes de crédit, tout ça, vous savez, c'est pas agréable. C'est plus agréable de voir monter ton compte que de le voir descendre. ou de voir en dessous de la marge, dans le rouge qu'on appelle, et de le voir monter, c'est pas stimulant de voir, mais maintenant, je suis super content. Au lieu de devoir 10 000, je dois 900, je dois 9 000 ou je dois 8 000. C'est pas stimulant. Mais si je dis, écoute, on n'avait rien, maintenant, on a commencé à augmenter nos dépôts. Et voici, maintenant, on est super chez nous. On peut aller en vacances cet hiver. On peut prendre un petit 10 jours à quelque part, toi et moi, parce qu'on a les moyens maintenant, parce qu'on a investi. Donc, faites le même rapport, la même logique, avec toute la question de l'investissement émotionnel, de l'investissement au niveau de votre couple, c'est-à-dire ce que vous faites. Regardez bien le principe derrière tout ça. Les couples qui font tout en leur pouvoir pour faire en sorte que leur conjoint soit heureux et qui évitent de faire quoi que ce soit pour rendre leur conjoint malheureux sont assurés de conserver leur amour intact et florissant. Donc, quand on observe les couples et on les regarde, on s'aperçoit qu'ils font des choses qui font en sorte de repousser l'autre. Donc, des gestes qui créent une espèce, à place de faire un effet d'attraction, ça fait un effet d'aversion et de distanciation. Donc, les couples, ils ont compris un peu la mécanique. OK? Et là, je suis conscient que des fois, on n'a pas le goût de le faire. Au même titre qu'on n'a pas le goût de rembourser nos dettes. Ça ne me tente pas, mais je n'ai pas le choix, mais il faut que je fasse. Donc, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'assumer ce sens de responsabilité. Donc, c'est la même chose au niveau d'un couple. Et s'ils font pouvoir faire en sorte que leur conjoint soit heureux, eh bien, ils vont éviter de faire quoi que ce soit pour le rendre malheureux. On a une longueur d'avance. Okay? Donc, on évalue à la fois ce qu'ils aiment, puis on évite de faire ce qu'ils n'aiment pas. Okay? Maintenant, regardez bien. Le mariage chrétien, plus que tout, c'est pas la recherche de notre intérêt personnel. L'épanouissement, c'est la recherche de l'intérêt de l'autre. Maintenant, je sais bien que certains disent « Wow, mais là, wow, c'est toujours à moi de donner. » Non, 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 non. Quand les deux le font, eh bien, les deux sont comblés. Voyez-vous? Tandis que dans la culture de notre société autour, la conception du mariage, c'est une conception basée sur une transaction de type commercial. C'est un contrat. Le contrat, si je le signe, il faut que les deux respectent les clauses. Puis si un ne respecte pas les clauses, bien l'autre est capable ou de rompre le contrat. C'est ce qu'on fait. C'est une approche dite de consommation. Dans la perspective chrétienne, le mariage, c'est pas un contrat dans ce sens-là. Je comprends qu'on a un contrat parfois notarié avec le notaire. C'est pas de ça que je parle. Je parle sur le plan de la relation. Donc, c'est pas, écoute, si tu ne combles pas mes besoins, mais moi, je débarque parce que je m'attendais, en m'étant marié, que tu comblerais mes besoins sexuels, mes besoins, si, ça. Puis, moi, tu n'as pas rappelé ta part de contrat, bien, maintenant, moi, je m'en vais. Non, 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 non. Pas dans la perspective biblique. La perspective biblique, c'est une alliance ensemble où on participe tous les deux et on construit ensemble cette vie à deux et cette famille et ce foyer. Vous voyez? Donc, plus je me préoccupe de l'autre. Et vous savez, c'est donner, il vous sera donné. C'est ça la perspective du Nouveau Testament. Si vous donnez, vous vous investissez, vous allez avoir un retour sur votre investissement. Et quand les deux le font, évidemment, le mariage s'épanouit. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu simple. Peut-être en ce moment, vous-même, vous dites, c'est un petit peu simpliste, parce que vous ne le mettez pas en pratique. Le jour, vous allez le mettre en pratique. Okay? Moi, je suis ici aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que ma femme m'a permis de venir ici. Pas parce que j'obéis, pas parce qu'elle est ma mère, parce que ça lui coûte quelque chose. Elle reste toute seule à la maison. Il y a 10 jours, on était en voyage. Elle était en France. Moi, j'étais en Suisse. On ne s'est pas vus. Okay? Je pourrais rester chez moi. Mais, étant donné qu'elle est consciente du ministère, de l'importance du ministère, elle me laisse l'aide. Donc, je m'en vais. J'étais sur la route ce matin. Moi, j'étais triste parce que je la laisse à la maison. Mais, j'étais pas culpabilisé. J'étais pas en disant, bon, elle a fait une crise avant que je parte, puis là, je suis pris, je me sens coupable, je vais aller faire mon travail, mais je peux revenir plus vite à la maison pour tempérer, un peu calmer tout ça. C'est pas le cas, OK? Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que mes épouses, ma première femme m'a permis d'aller faire des études pendant des années. Ici, à l'UQTR, après ça, à l'Université de Sherbrooke, on avait déjà 2 enfants. Voyez-vous, elle a investi sur moi dans le sens qu'elle m'a permis de devenir ce que je suis. Dans le cas de ma femme, de la mère de mes enfants, j'ai refait un retour sur cet investissement-là, parce que les années plus tard, c'est elle qui a pris la décision d'aller dans une direction, puis je l'ai facilité le processus. Donc, au lieu de tirer sur mon bout de couverture et qu'elle tire sur son bout de couverture, on a fait le geste volontaire. On est là pour s'aider mutuellement. On est là pour se supporter mutuellement. C'est ce que j'appelle l'investissement et les dépôts. Et lorsqu'on le fait, notre personnalité s'épanouit, puis on est heureux dans ce mariage-là, parce que c'est pas une condition qui m'empêche de. C'est une condition qui me favorise à. Mais maintenant, évidemment, il faut que ça soit équitable. Voilà pourquoi il faut discuter, communiquer, de façon à mettre ça équilibré, pas que ce soit toujours le même, qui fasse ses dépôts, encore une fois, et que l'autre fasse ses retraits. Donc, vous voyez un peu le principe. Si je fais à mon pouvoir, d'ailleurs, vous connaissez l'expression anglaise, qui est une expression plus masculine, « happy wife ». Happy life. Dans le fond, le plus grand service qu'on peut se rendre à soi-même, c'est rendre cette personne qui est avec nous heureux et heureuse. Maintenant, je sais bien que ce n'est pas toujours évident. Je sais que certains ont des difficultés personnelles à être heureux. Le mariage, le bonheur, c'est pas quelque chose de facile en soi. Mais là, ce qu'on comprend, c'est une contribution. Et moi, à la fin de ma vie, je voudrais que ma femme me dise, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de te rencontrer, OK, puis de te voir tout ce qu'on a vécu ensemble. Puis ça, c'est grâce à Dieu, bien évidemment, mais c'est grâce à un mari qui s'est préoccupé d'elle et qu'elle dise la même chose de moi. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en train de construire quelque chose qui va être solide. Ça nous amène à la question, les retraits, c'est rattaché à quoi? Bon, rappelez-vous, quand tout début, cet après-midi, j'ai parlé d'usure. L'usure provient de ce qu'on appelle les irritants dans le mariage. Ces choses que l'on fait qui dérangent l'autre, qui frustrent l'autre, OK, et qui génère énormément de tensions, sinon de conflits dans le mariage. Je vais vous montrer les quatre irritants que je rencontre le plus souvent lorsque je rencontre des couples. Donc là, on n'est pas dans des livres, on est dans des expériences. La première, c'est la colère. La deuxième, c'est la critique. La troisième, c'est la condamnation. La quatrième, c'est la contestation. Vous avez remarqué que c'est rattaché à la communication, à des mauvaises formes de communication. Donc, la personne qui avait posé la question sur la communication ce matin, vous avez des réponses ici. Là. On va voir ces points-là ensemble. Donc, quels sont les irritants? La colère. Qui veut vivre avec un terroriste? Peut-être vous allez dire, « Wow, c'est fort quand même. On est loin d'Al-Qaïda et de l'État islamique. » là. Oui, c'est un terrorisme familial. C'est du terrorisme émotionnel. Quand quelqu'un a des problèmes avec la colère, l'autre devient l'otage de ses émotions, de ses sentiments. Et la colère dans le mariage consiste à quoi? À prendre le contrôle. Parce que la colère, là, quitter l'image que c'est une perte de contrôle. Je m'excuse, j'ai pété un câble, pété un plomb, là, pété une coche, comme on dit en québécois. Je n'ai pas de express, j'ai échappé le contrôle. Non. Tu n'as pas échappé le contrôle. Tu as pris le contrôle, c'est pas la même chose. La colère... C'est une énergie qu'on déploie pour prendre le contrôle sur la situation. On intimide les gens tout autour de nous. La colère dans le mariage consiste à prendre le contrôle de la relation par des tentatives délibérées pour intimider ou blesser l'autre et l'amener à satisfaire ses désirs. C'est ça le côté machiavélique de la colère. C'est ça le côté... Bon, certains d'entre vous avez peut-être plus de difficultés avec cela parce qu'il y a une origine au fait qu'on se fâche ou qu'on blesse à ce point-là dans la colère. Puis souvent, contrairement, laissez-moi vous dire que c'est pas génétique. Vous n'êtes pas venu au monde comme ça, vous l'avez appris parce que dans votre milieu, votre famille ne gérait pas correctement cette émotion qui s'appelle la colère, voyez-vous? Donc, je le fais sans jugement cet après-midi. D'ailleurs, je ne sais pas qui a un problème avec la colère ici, je sais qu'il y en a parce que il y en a partout. Il y a des gens, moi, j'ai pas beaucoup j'ai pas un problème de colère. C'est quand même cher, je vais finir par me trouver, là, c'est évident. Mais je suis pas un gars avec un mauvais tempérament, avec un tempérament soupolé. Je suis assez égal comme nature. Donc, j'ai pas de mérite. Il y en a d'autres, parce que ma famille est une famille hyper stable, cool. Puis mon père, c'est un bon gars je l'ai vu se fâcher une fois pendant dans les 8 ans que je l'ai connu. Mais d'autres, vous venez d'un autre milieu. Où c'était pas géré tout ça, il y avait de la tension dans la maison, de la frustration, ça se crie, il y a plein de situations. Puis il y a des aimants rattachés à certaines cultures, OK? Nous, les Québécois, on est assez soft là-dessus. Mais aller dans le sud de la France, aller en Espagne, aller en Italie, aller dans l'autre côté de la Méditerranée où les tempéraments sont hyper chauds, moi, j'ai vu, quand je suis en France, je suis hébergé par un vieux couple, ils sont adorables. Elle est italienne et lui, il est corse. OK? Leurs parents étaient italiens et corse. Et lui, le monsieur me raconte les bagarres avec sa mère. Là. Il se lance du poisson dans la cuisine. Il prend le poisson. OK? Et puis à un moment donné, c'est tellement caricatural que les enfants avaient même plus peur parce que c'est comme un spectacle. C'est comme Louis de Funès qui est en train de, ou je sais pas quel, ouais, c'est tellement caricatural. Mais c'est de la mauvaise gestion d'émotion. Et certains d'entre vous avez vécu des épisodes dans la maison, chez vos parents, où il y a ce débordement de colère, peut-être plus rude. Moi, je dis toujours, dans le cœur de chacun des Québécois, il sommeille un bûcheron. On est capable de bûcher quelqu'un, si on veut. Nous, on a ce côté un peu cro-magnon parfois, là. Donc, il faut apprendre à gérer tout ça, mais on a quand même des tempéraments plus faciles que d'autres cultures où c'est plus volatile, c'est plus inflammable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce que je vais vous faire réaliser, moi, j'ai vu des enfants dans mon bureau, là, OK, raconter lorsqu'ils arrivent, c'est un problème de monsieur de colère masculine plus que de colère féminine. Je vais faire une différence entre les deux dans quelques instants. Mais lorsqu'ils savent que leur père est sur le point d'arriver, la tension commence déjà, ils commencent déjà à être anxieux à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont 5-6 ans et ils vivent déjà de l'anxiété parce que comment va être papa ce soir? Il va être fâché, il va être de bonne humeur. Et là, il regarde tous les signes, il voit ça comme, il détecte, il ressent toute la tension qui va prendre place, voyez-vous? On ne peut pas passer une vie comme ça et s'épanouir. On vit des émotions qu'on n'est pas obligé de vivre. On vit une tension qui use qu'on n'est pas obligé de vivre. Donc, ceux qui, parmi vous, ont de la colère, vous devez apprendre à résoudre cela. Vous devez apprendre à corriger cela. Faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le pour l'amour de votre mariage. Faites-le. Maintenant, ça serait faux de croire que la colère est simplement la condition masculine. Nous, on a une colère brute, rough, russe, Les femmes ont une colère. Ainsi, nous, on a une colère tronçonneuse. Elles ont une colère scalpelienne, incisive. OK? Le petit mot pour faire sauter, là. L'allusion, voyez-vous tout cela. Donc, chacun pour soi, on doit arriver en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Évidemment que derrière la colère, il y a aussi des blessures. Mais les gens blessés blessent les gens. Vous êtes peut-être blessé, vous devez adresser vos blessures, vous devez marcher sur un chemin de restauration et de rétablissement de façon à éviter, bien sûr, de blesser les autres qui sont autour de vous. Dites « ouf ». Deuxième, la critique. Qui veut vivre avec un procureur? Vous savez ce qu'est un procureur? C'est celui qui lève les charges pour voir si on doit porter accusation ou non et aller en procès ou non. C'est le procureur qui décide ça, le procureur de la couronne. La critique dans le mariage consiste à mettre en évidence les défauts et les manquements de l'autre en croyant qu'il ou elle en prendra conscience et changera. OK? À répéter. T'es comme ça. Voyez-vous? Et ce qui est triste, c'est souvent ce que beaucoup d'entre vous avez vécu dans votre propre famille. Vos parents faisaient cela avec vous. Donc, vous le reproduisez presque inconsciemment par un processus qui s'appelle le mimétisme, qu'on répète ce qu'on a entendu sans y réfléchir. Donc, la critique dans le mariage, ça finit par user, saper. Qui veut vivre avec cela? Qui veut vivre avec toujours quelqu'un qui le remet en question? Vous savez que la plupart d'entre nous, on est conscient de nos défauts. Moi, je connais mes défauts. Ça fait 63 ans que je vis avec moi. OK? De me faire abattre mes défauts à tous les jours ne m'aide pas à corriger le défaut, ça fait un effet inverse. OK? Donc, faites un peu de psychologie dans tout cela. Plus vous répétez, puis d'ailleurs, vous savez, ce matin, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre mari ou votre femme? À l'unanimité, ceux qui étaient profondément honnêtes ont répondu oui. D'autres ont pas osé lever la main, mais je sais que si vous l'avez essayé, je blague. Mais vous savez que non seulement vous avez remarqué qu'il ne pouvait pas changer, qu'il ne changeait pas, ou que la personne à côté de vous, votre mari ou votre femme, ne changeait pas, mais vous avez remarqué même parfois que ça empirait. Si boulot, plus je prie, plus j'essaie, plus je... C'est-à-dire qu'il empire, OK? C'est un drôle de phénomène. Mais à partir du moment où vous relâchez les choses, OK? Vous allez voir que les choses vont commencer à changer parce que le temps que je me défends contre la critique, je ne travaille pas sur moi assez de corriger mes défauts. Vous, je me protège émotionnellement. Donc, littéralement, le travail qui devrait se faire à l'intérieur est tellement projeté vers l'autre pour se protéger de cette situation-là. Donc, à ce moment-là, on dit, ouais, mais là, pasteur Denis, si je laisse faire, là, je vais être pris combien d'années, moi, avec les mêmes situations, OK? Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer l'autre, mais que vous pouvez changer vous-même et apprendre à accepter les choses. Lorsque vous êtes tous chrétiens ici, est-ce que lorsque vous êtes arrivés, vous êtes venu à Jésus, Jésus vous a dit « Change, puis je vais t'accepter. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a acceptés tels que nous étions. Pauvre, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'était pas dans un contexte méritoire, en disant « Tu veux comment je suis? Tu peux m'accepter maintenant. » L'acceptation de Dieu a été le prélude à notre transformation. Parce qu'on s'est senti accepté, parce qu'on s'est senti aimé, On a pris conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est la même chose qui se passe dans les relations humaines. Moi, comme thérapeute, quand je reçois quelqu'un, on a parlé de respect ce matin, je l'accepte telle qu'elle est, je la prends telle qu'elle est la personne. OK? Pensez-vous que je vois pas les défauts? Des fois, c'est tellement apparent, là. OK? Mais je sais que le prélude au changement, c'est l'acceptation. Accepter l'autre ne veut pas dire approuver l'autre. Dieu m'accepte, ça veut pas dire qu'il est d'accord avec moi dans tout ce que je pense, ce que je fais, tous les gestes que je pose. C'est un état d'âme dans lequel on accepte l'autre. Puis à ce moment-là, quand on se sent accepté, on est dans un contexte propice pour commencer à travailler sur soi ou à laisser Dieu travailler dans notre vie pour qu'on devienne ce qu'on veut qu'on soit. Donc, la critique, ça a un effet complètement inverse. La critique, rappelez-vous, si vous avez des parents qui vous critiquaient, si vous avez un patron qui vous critique, le patron rentre dans votre bureau, il vous relance tous vos défauts, est-ce qu'après ça, vous êtes gonflé à bloc, « Ah, ce matin, je suis allé au bureau, là. Puis mon patron m'a varlopé, m'a siphonné, m'a savonné, et là, ça m'a fait tellement bien, là. Je pense que je vais donner ma vie pour lui, moi. » Non, ce que vous avez le goût, c'est quoi? Vous n'avez pas le goût de donner sa vie, vous avez le goût de prendre sa vie. Vous avez le goût de dire, plus capable, là, OK? C'est pas comme ça qu'on active la dévotion, le goût de s'investir, de travailler pour lui. Il est tellement fin, voyez-vous. Donc, puis vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toutes sortes de façons de parler de cela. Êtes-vous toujours là, là? Quand vous êtes des personnes, surveillez donc votre voisin s'il n'y a pas personne qui cligne des yeux et qui dort et tout ça, non? Mesdames, surveillez votre mari, OK? La contestation. Qui veut vivre avec un opposant? La contestation dans le mariage consiste à remettre en question les idées, les initiatives de l'autre et ainsi les disqualifier. Encore une fois, c'est toujours dans la vie de couple. Évidemment que c'était pas comme ça au début, mais que c'est devenu comme ça au fil des années parce que plein de choses qu'on a commencé à voir qui nous dérangent. Et à partir du moment où l'autre tente de faire avec certains collectifs, on disqualifie. Ça peut être des idées, ça peut être des initiatives, ça peut être l'homme et sa femme discutent ensemble, communiquent ensemble, puis la femme pose une question. Le gars n'a pas le temps de répondre, puis la femme dit « Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu penses. » Comment tu fais pour savoir ce que je pense quand moi, je n'ai même pas commencé à penser encore? Okay. Je ne sais même pas. Je suis en train de travailler ma réponse pour savoir si ça me prend un avocat pour te répondre. Sinon, je vais réveiller le volcan qui va entrer en éruption. Là. Okay. Voyez-vous là qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. À long terme, on ne peut pas. C'est entre vous, vous devez comprendre aussi qu'avec les années et l'usure, il y a des mécanismes qui sont installés en vous, des mécanismes de frustration qui font en sorte okay, que vous allez devoir corriger des choses. Au moment où je vous parle, je viens d'avoir un flash dans ma tête. On est, bien sûr, c'est la vie moderne, c'est la mondialisation, c'est l'immigration, c'est plein de couples qui sont des couples mixtes, dans le sens, on est ici au Québec, en québécois et hispanophones, latinos, africains, européens et tout cela. Et j'ai eu un couple un jour où elle est québécoise féministe de souche. Qu'est-ce qu'une québécoise peut être féministe de souche? Vous savez ce à quoi je fais allusion? Je suis pas anti-féministe, là, mais je vous dis, vous voyez un peu le genre. Et lui, c'est un latino. Et quand on connaît la culture hispanophone, c'est un peu le respect, c'est un peu patriarcal dans le respect. Enfin, patriarcal et matriarcal, la mère a une bonne place, là. Faut pas toucher à la mère d'un hispanophone. Nous, les Québécois, pas plus grave que ça, mais, pas. Et la fille, et lui, le gars, c'est un bon gars. Les deux sont chrétiens. Mais très, très vite, elle le conteste constamment. Et plus elle le conteste, plus la tension commence à monter parce que lui, dans sa culture, c'est une femme ne peut pas parler à un homme comme ça. Puis elle lui répond, ici, on est au Québec, on n'est pas dans ton pays. Okay, moi, je vais te dire ce que je veux te dire, quand je veux te dire, comme je veux te dire. À un moment donné, c'était tellement ardu là, dans l'entretien là, que je disais à madame, changez de ton. Changez de ton, changez. Le problème, c'est pas le contenu de la phrase, c'est l'intonation. Elle traite comme un moron, OK, devant moi, là, OK? Puis lui, il se contrôle, mais là, je sens que si j'approche la flamme, ça va sauter, là, OK? Mais elle comprend pas qu'elle n'arrête pas, OK? Maintenant, le problème, c'est faut équilibrer tout cela, OK? Bon, lui, il va être en changement, sa culture va évoluer, il va. Je pense à notre frère, votre petit qui est né au Québec. Il va avoir des racines hispanophones, mais il va mijoter dans la cuve québécoise. Il va être une mixture originale, voyez-vous. Mais c'est pas toujours le cas, oui, puisqu'il va grandir ici. Donc, il faut être capable d'agencer tout ça, et c'est pas évident. Et ce que j'ai dû faire comme travail avec la dame, c'est lui expliquer à toutes les fois qu'elle réagit de telle façon ou qu'elle parle de telle façon. Ça peut se faire dans ta famille, mais ça ne peut plus se faire dans ton couple. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas faire un copier-coller. Parce que ton mari, c'est. Puis même un Québécois, de ça, je ne suis pas sûr qu'il se préparait comme à parler. Vous avez été fait sur l'Europe, la dame. Là. Puis je ne dis pas que c'est pas une lutteuse de l'Allemagne de l'Est. Là. C'était c'est une bonne Québécoise. Mais les Québécoises, là, c'est fini l'époque. On les ça n'existe plus maintenant. Donalda, là, ça ne marche plus. Là, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut être capable de composer avec cela. OK? Et parfois, je donne l'exemple de cela parce que c'était comme deux cultures tellement à l'opposé. Moi, je disais aux frères, je vais au Mexique trois fois par année, à Mexico City, puis je vis avec le peuple. Là. Je suis dans un quartier un peu au Chalaga-Maisonneuve, là, à Mexico City. Je sors même pas dehors tout seul, là, OK? Je suis toujours avec un ami. Et je suis dans la culture, parce que je suis dans la famille, je mange avec eux, je vis avec eux et tout ça. Et je le vois le rôle de l'homme, OK? Avec le statut particulier. Puis je vois les femmes qui se mettent comme elles parlent à leur mari. OK? Maintenant, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Là. Je parle de on doit composer avec la culture. Voyez-vous? Parce qu'il faut s'ajuster en cours de route. Les choses vont évoluer avec le temps parce qu'on va on va progresser, transformer tout cela, on va s'adapter ensemble. Mais il ne faut pas peser sur les boutons qui vont faire sauter la situation. Donc, parfois, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui fait que ça éveille ou ça évoque ça? Voyez-vous? Êtes-vous là? OK. Vous êtes tellement sage que j'ai l'impression parfois que vous disparaissez. Quatrième, la condamnation. Qui veut vivre avec un juge de la Cour suprême? La condamnation dans le mariage consiste à juger et à blâmer l'autre en croyant qu'il est le seul responsable de ce qui arrive. Un peu comme avec la contestation ou l'accusation. La condamnation, c'est le reproche qu'on fait constamment à l'autre. On juge premièrement. Vous savez, quand je vais monter au ciel, si je monte, dans le sens que si un enlèvement a lieu, pas dans le sens que je suis pas sauvé, là, je vais avoir un petit carnet noir dans ma poche arrière et j'ai plein de questions à poser à Dieu. Pourquoi c'est si simple? Pourquoi tu n'as pas été plus clair sur tel sujet? Pourquoi on s'est cassé la tête pendant 2 millénaires sur des aspects théologiques, OK? Quand ça aurait pu être un peu plus clair que cela au Dieu, puis nous aurait sauvé de la salive et des disputes et des divisions et des schismes, il n'y en a plus fini. T'es d'accord avec moi? On a tous des questions comme ça. Mais il y a certains sujets dans la Bible où on n'a pas besoin de se poser des questions parce que c'est trop clair. Un de ces sujets-là, c'est le jugement. Qu'est-ce qui est compliqué? Ne jugez pas. On peut l'interpréter comment, non? Qui es-tu ou toi qui juge? Qui es-tu ou toi qui juge? Parce que celui qui juge l'autre, en fait, le juge est en position d'autorité sur l'autre. Si moi je juge ma femme, je me dis, écoute, moi je suis bien, moi j'ai un pouvoir, moi j'ai la vérité, moi je suis dominant, moi je sais tout, et toi, tu es disqualifié. Là. Okay? Je suis supérieur, moi. Je sais tout, moi. J'ai toujours raison. Non, c'est pas vrai. On est égal à égal. Donc, celui qui se juge, se met. Et qui es-tu ou toi qui juge? Toi qui juge, d'ailleurs, le texte dit que tu commets les mêmes choses. Donc, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se condamner. Comment on fait pour savoir que quelqu'un juge ou condamne l'autre, surtout au niveau de la condamnation, par les mots qu'il utilise? Là, en général, on utilise le terme tu. Parce que avec le tu, tu ne me comprends pas, tu ne m'as jamais aimé, tu ne me fais pas confiance, tu es comme ta mère. T'es comme ton père. Regarde le tu ou le t'es, le tu. Le principe de base, bien la petite leçon, le tu. Le tu. Il y a des tu, puis il y a le tu qui tue. OK? Vous allez vous en souvenir là, dire, écoute, t'es tenu de ta journée, mais quand tu passes la nuit, il y a fait le tu. OK? Donc, à la place, je vous l'avais déjà entendu, assumez le je. J'aime pas ce qui se passe, je ne comprends pas, j'aimerais te comprendre, je ne saisis pas, j'assume moi. Parce que quand on rentre dans le blâme, le tu, le blâme, en anglais on appelle ça le blame game, c'est le jeu du blâme. Tu es toujours en train de blâmer l'autre, puis à un moment donné, ça fait un effet d'éloignement. Personne n'a le goût de vivre ces choses-là. Personne n'a le goût de se faire parler de cette façon-là. Une parole dure excite la colère, mais une parole douce Voyez-vous l'inter-influence des émotions qu'on peut éveiller, de l'inter-influence des relations qu'on peut éveiller, des émotions dans la vie de l'autre. La parole de Dieu, c'est que on peut faire sauter tout ça ou on peut calmer tout ça. Maintenant, calmer ne veut pas dire ne pas résoudre. Ne veut pas dire, maintenant c'est calmé, c'est fini, c'est disparu. Non, non, non. Gardez à l'esprit une citation très profonde que je vais vous donner, qui est de moi. Un problème non résolu est un problème non résolu. Est-ce que le temps règle les problèmes?
Non.
Non. OK. Les problèmes, c'est comme les factures. Si vous ne les réglez pas, si je prends ma facture d'Hydro-Québec, je la déchire, je la mets aux poubelles, et elle est disparue. Mais vous savez ce qui va revenir? Ce qui va se passer? Elle va revenir avec un petit montant supplémentaire. OK? Puis à un moment donné, je vais perdre mon courant parce qu'il va dire, fait 6 mois, là, monsieur, c'est fini, plus de courant, payez votre facture. C'est, maintenant, on le fait. Pas pour le mois de décembre, là, mais on le fait. La réalité, c'est que des problèmes, c'est comme des factures. Quand on ne les règle pas, ils s'accumulent puis ils nous mettent en position difficile. Morale de l'histoire, il faut régler les choses. Quand c'est en moi, je dois le régler. Quand c'est entre nous, on doit le régler. Quand c'est avec les autres, aux alentours, parce que des problèmes viennent parfois de l'extérieur, de la belle famille, des beaux parents. Il faut régler les problèmes. La vie n'est qu'une succession de problèmes à régler. C'est beau la vie, hein? Honnêtement, c'est ce que vous faites à longueur de journée. Peu importe le métier que vous faites, vous passez vos journées à résoudre des problèmes. Vous êtes instituteur, vous êtes enseignant, vous réglez des petits problèmes si vous êtes au primaire. Il y a plus gros problème si vous êtes au secondaire. Au collège, c'est encore plus pire. Ils ont grandi. Les problèmes grandissent avec le temps, d'ailleurs, dans ce sens-là, comme un V. Vous êtes un informatique, vous passez vos journées à régler des problèmes. Vous êtes ingénieur, vous réglez des problèmes. On fait notre vie, mais on dit, encore, on a un autre problème à régler. Non, on sait que ça fait partie du mode de la vie. En ce qui concerne notre vie personnelle, nos relations, nos mariages, on ne devrait pas en avoir de problème. Mais non. Qui dit problème aussi, dit simplement pour pas des problèmes d'ajustement, des problèmes d'adaptation, des problèmes de communication, ça, on ne se comprend pas. On va s'asseoir, on va finir par se comprendre. Vous me suivez? Donc, c'est ça l'élément important. Donc, quand on commence à comprendre toute cette réalité des irritants et qu'on cesse de marcher dans ce sens ou de réagir dans ce sens-là, juste le fait d'éviter déjà, c'est un peu comme encore une fois dans l'administration de votre budget familial. Là, si vous commencez à éviter de dépenser, déjà, OK, vous améliorez votre condition. Mais ça va être beaucoup plus que d'arrêter, bien sûr. Ça va être de commencer à s'investir encore davantage. Et c'est fou. Quand je m'adresse comme ça, quand j'ai un couple devant moi, je leur dis à peu près la même chose. Je leur dis, regardez bien. Lorsque vous êtes rencontrés il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, c'est un peu l'image. On vous a donné un jardin, un bout de terre. OK? Regardez à quoi ça ressemble 20 ans plus tard. Les mauvaises herbes. Les cailloux, les roches, OK? Tout ce qui pousse là-dedans, toutes les maringouins, l'eau stagnante, peu importe, OK? Ça, c'est votre œuvre à vous. Mais on n'a rien fait pour ça. Mais effectivement, un jardin, là, vous ne pouvez pas ne pas rien faire. Il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, vous avez laissé ça aller, puis voici ce que c'est devenu. Maintenant, si vous commencez à faire le travail que vous devez faire, vous allez enlever les mauvaises herbes, les irritants, enlever tout ce qui vient, et là, vous allez travailler ensemble, vous allez construire quelque chose, et voici ce qui va arriver. Vous allez être capable de réaliser le projet de votre vie, d'être heureux avec la personne avec laquelle vous êtes. Donc, il y a des choses qu'il faut cesser, puis des choses qu'il faut faire absolument. Dernier point, en conclusion. Ça, c'est le grand écrivain russe Tolstoï. C'est super ce qu'il dit. Le but de la vie n'est pas de trouver la joie dans le mariage, mais d'apporter plus d'amour et de vérité dans le monde. On se marie pour s'assister mutuellement dans cette tâche. L'appel le plus grand d'un homme est lorsqu'il dédie sa vie à servir Dieu et à faire le bien et qu'il s'unit à une femme dans l'intention de mieux accomplir ce but. Donc, toute la monopolisation que vous avez face à vos problèmes vous empêche d'œuvrer à l'amélioration de ce monde autour de vous. Moi, je suis hyper privilégié. Ça va vous raconter quelque chose. Hyper privilégié d'être avec ma femme actuelle, Marie-Jo. Marie-Jo, elle était allée de La Réunion à 15 000 km de chez moi. Je l'ai rencontrée là-bas par des amis communs et j'étais dans un voyage en mission là-bas. Et elle est priée pour avoir un homme de Dieu. Je veux travailler avec un homme de Dieu parce que je veux servir Dieu. OK? Son cœur. Plein d'autres gens, c'est pas ça. Ils veulent du cash, ils veulent la sécurité. Elle dit, moi, je veux servir Dieu. Mais on est conscient que Marie-Jo s'est insérée dans ma vie. J'étais déjà dans le ministère. Puis moi, je voulais pas me remarier. Mais je connaissais la nature humaine pour savoir qu'on peut être foudroyé par la foudre, par avoir un coup de foudre. Donc, dans mon téléphone, j'avais mis 10 critères. Et j'ai fait alliance avec Dieu et avec moi-même. Je ne remettais pas en question si la personne, si jamais je rencontre quelqu'un et qu'elle ne respecte pas l'un de ces 10 critères, je ne la marie pas, je me sauve chez moi et c'est tout. OK? Et Marie-Jo, dans j'en ai compté, elle a rempli les 10 critères. Puis il y avait des critères hyper spirituels. Puis il y avait des critères purement naturels, que ce soit adoration avec nos enfants et tout ça, voyez-vous? Et qui mettait en perspective la valeur ou les valeurs qu'ont les personnes. Les valeurs qui nous animent, ce qui importe pour nous. Savez-vous pourquoi on appelle valeur, valeur? Parce que ça vaut quelque chose. Dans la vie moderne, toutes tes valeurs, j'ai mes valeurs, je respecte tes valeurs, je respecte mes valeurs. Les valeurs perdent leur valeur. Parce que ça devient un peu aléatoire, OK? Je t'impose pas mes valeurs, impose-moi pas. À un moment donné, les valeurs ne veulent plus rien dire. Mais heureux celui qui trouve une femme de valeur. Heureux celle qui trouve un homme de valeur et qui ont des valeurs et que ces valeurs sont quelque chose qui valorise leur vie. La première fois que Marie-Jo est arrivée au Mexique avec moi, moi je prêchais dans des églises et tout ça, elle était là, puis elle dit, moi je veux faire quelque chose. Elle a commencé à s'impliquer. En ce moment, on est en train de créer un ONG qu'elle va diriger, qui va travailler à s'impliquer auprès des personnes défavorisées. Le Mexique, c'est un paradoxe. Il y a beaucoup de pays latinos. Il y a des régions très, très riches. Puis d'autres régions, tu quittes la capitale, puis tu te retrouves au Moyen Âge. Avec les femmes qui transportent le bois sur les épaules et tout cela, c'est une pauvreté abjecte. Et là, en ce moment, elle part pour le Mexique dans une dizaine de jours, parce que lors du dernier tremblement de terre, il y a eu 47 églises qui ont été détruites dans les villages les plus pauvres. Il n'y a plus d'église. Mais l'église, c'est plus qu'un bâtiment, là. C'est un point de rassemblement pour tous ces gens-là. Oui. Et moi, je la regarde faire, puis souvent, elle me dit, « Faut que je fasse plus, faut que je fasse plus pour Dieu. » Je dis, « Chérie, je regarde ton cœur. Dieu va finir pour voir, parce que repartir à zéro, toutes sortes de choses, c'est pas évident, surtout que parfois, les besoins semblent tellement immenses qu'on ne sait plus par où commencer. Puis je la laisse faire, pourquoi? Parce que ça, c'est elle. Et après, je repars à ma place. Ce ne sera pas une copie-collée de mon ministère. Moi, c'est pas mon appel, j'aime ça, là, puis je l'accompagne quand je peux. Mais c'est son appel à elle, et moi, je suis là pour participer à son appel. Le but dans la vie, c'est pas juste de trouver de la joie dans notre vie à deux petits oiseaux sur le bord de la branche qui se bécotent en longueur de journée. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde autour de nous? Donc, vous avez double bénéfice à résoudre les problèmes auxquels vous avez à faire face. Vous allez vous épanouir, mais vous allez vous épanouir dans une vie à deux, vous allez être bien ensemble, mais vous allez travailler ensemble à deux à faire en sorte que ce monde dans lequel on vit soit un peu meilleur que ce qu'il était. Et ça, c'est moi, je crois, encore une fois, que c'est la responsabilité que nous avons comme chrétiens, et c'est le sens qu'on peut donner à notre vie aussi. Encore une fois, ça veut dire que vous allez être missionnaire en Afrique, au Burkina Faso, ça veut simplement dire que vous pouvez participer. Il y a tellement de besoins autour de nous, tellement de besoins autour de nous. Et encore une fois, moi, je sais que je me répète, mais je crois vraiment à l'Église locale. Je suis un fier partisan de l'Église locale. L'église locale, là, c'est fou tout ce qui peut se passer avec une église. Et vous savez que l'église, c'est pas ça. C'est vous, c'est quoi l'église? C'est vous. Ça ne change pas la vie de personne. Ça nous protège de la pluie, de la neige et du froid, mais ça ne change pas la vie. C'est un objet inanimé. C'est vous qui êtes animé, c'est vous qui avez à cœur des choses, c'est vous qui pouvez intervenir dans la vie des gens, c'est vous que Dieu peut utiliser, tout simplement. Mais dans la mesure où ce qu'on... Et je sais que dans le fond, c'est ce que vous rêvez. On rêve tous d'avoir un sens profond de notre vie. Je fais quelque chose qui bénit. Chérie, on fait quelque chose aussi ensemble qui bénit ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, de fermer les yeux, s'il vous plaît? Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Seigneur, je veux te prier pour chacun des couples. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu puisses faire un travail en eux. Le problème, Seigneur, que j'ai parfois, c'est que je connais tellement des problèmes que je suis capable d'imaginer les couples qui en ce moment souffrent, doutent, désespèrent. Mais Seigneur, au-delà de toutes les paroles d'une conférence, de tous les préceptes, les principes, Seigneur, il y a des choses que toi seul, tu peux faire. Toucher les cœurs. Convaincre plus profond les cœurs. Toi seul peux insuffler l'espoir. Toi seul peux dissiper les doutes, Seigneur, par ton esprit. D'un revers de ta main, simplement, Seigneur, toutes ces choses-là reprennent leur place. Toi seul aussi peux parler au cœur de ceux qui doivent changer des choses, de ceux qui doivent réagir différemment, parler différemment, de ceux qui doivent faire quelque chose, prendre soin, s'investir. Seigneur, notre mariage peut devenir ce que toi tu veux qu'il soit, le rêve que tu sois pour chacun de nous, le rêve que tu sois, le désir que tu sois. Mais Seigneur, tu dois travailler avec nous, parce que si tu ne le fais pas, ce travail sans nous, sans notre participation, sans notre coopération. Voilà pourquoi, simplement cet après-midi, on se place devant toi en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seul, je ne peux pas y arriver. Seul, je ne peux pas me changer à ce point-là. Mais je me place en totale soumission à toi, à ton esprit, à ta parole. Et je te dis, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu me demandes de faire, et que je puisse voir et avoir en retour ce que tu sois, comme bénédiction et comme manifestation. Seigneur, je te prie pour ces couples que cette prière devienne leur credo. Bon, pendant qu'ils s'occupent des petits problèmes techniques, la vie, c'est une succession de problèmes à régler. Hein? Technique ou vidéo ou sono, toujours ça, toujours la même chose. Enlevez-vous de l'idée qu'un jour, vous n'aurez plus de problèmes. Vous n'aurez plus quand vous allez être couché dans le cimetière ou lorsque vos cendres seront dispersées à travers la planète. Je voudrais juste, avant d'aller dans le contexte de la conférence, vous parler un tout petit peu de moi et de ce que je fais à l'heure actuelle. Comme je l'ai mentionné un petit peu au début de du message de ce matin, j'ai été pendant, ça fait 40 quelques années que je fais ce que je fais. J'ai été à Nouvelle-Vie pendant, je suis toujours là, mais je suis plus en fonction. J'ai, au fil des années, accumulé énormément de matériel et d'outils et tout cela. Et on est dans la vie moderne, donc j'ai mis sur pied sur Internet plein de trucs. À la fin du message, je vais vous passer une vidéo pour... vous allez voir, je commenterai la vidéo après, je ne vais pas le faire avant. Là. Mais je suis en train de mettre sur pied aussi toute une autre plateforme avec plein d'enseignements. Tout ça est fait de qualité studio et tout cela. Ce n'est pas la petite caméra Canon dans le coin d'un bureau en train de parler. Là. C'est fait par des professionnels. Et donc, je suis en mode hyper-production plein de leçons. Vous allez avoir accès à ça sur Internet. Maintenant, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se faire, parce que je sais que l'accès intéressant sur Internet, étant ça ne sera pas ouvert à tous, c'est-à-dire c'est ouvert à ceux qui vont s'inscrire et qui vont participer. Là. Parce que sur YouTube et sur Vimeo, tout ça, c'est comme une mare à poissons. Il y a tellement de poissons dedans qu'on ne sait plus lesquels regarder. Moi, ça va être ciblé sur les enseignements que j'ai travaillé au fil de toutes ces années-là. Donc, à la fin, je vais maintenir à la table, même après la vidéo. Et si ça vous dit, vous êtes intéressé, je vais vous mettre sur ma liste de correspondance, votre email, et vous allez être tenu au courant de tout ce qui se fait. Moi, je ne sollicite jamais. Donc, soyez pas inquiet, je ne demande pas de dons et tout ça. C'est pas ce que je cherche. Je cherche à vous proposer du matériel et à ce moment-là, vous pourrez regarder tout ça. Donc, à la fin, après des questions, on va voir la petite vidéo qui va durer même pas deux minutes. Après coup, je vous donnerai des explications supplémentaires. Puis après coup, je vais maintenir la table à l'arrière. Et si ça vous dit, bien, on fera un pas de plus ensemble. Ça vous va? Êtes-vous d'attaque pour la troisième session? Est-ce que ça va déjà un petit peu mieux quand même dans votre couple, dans votre mariage? Non, mais c'est pas gentil ce que je viens de dire. Ça présume que ça allait pas bien. Qui suis-je pour juger, là? Voyons. On va un peu toujours dans la même direction. Attends, le malaise intérieur que j'ai en ce moment est le suivant, parce que je discute avec certains d'entre vous, venez me voir et tout cela. Il y a tellement de matériel sur le couple, sur le mariage, tellement de besoins. J'ai effleuré la communication, je vais encore l'effleurer dans quelques instants, mais la communication, c'est complexe. On peut passer quelques heures sur la communication pour expliquer. Puis moi, plus que tout, je suis un enseignant. Ma fibre intérieure, je crois que les gens, lorsqu'on leur explique les choses, qu'on leur montre comment faire, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils comprennent. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Quand ça rentre ici, après coup, je peux l'actualiser dans des gestes concrets, mais il faut que je comprenne. Notre culture évangélique, c'est une culture axée beaucoup sur la prédication. La prédication a cet effet de motivation. La prédication, ça nous booste, ça nous motive. Wow, ça me fait du bien. Mais l'enseignement fait appel davantage à la raison, c'est-à-dire comprendre les concepts, intégrer. Par exemple, lorsque je parle de communication, c'est pourquoi il faut communiquer? Ben, parce qu'il faut communiquer, parce que c'est important pour un couple pour communiquer. En fait, vous voyez, je n'ai pas répondu à la question. Il y a des raisons pour communiquer. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait comme effet? Qu'est-ce que ça me permet de et tout ça? Donc, ça, c'est l'enseignement qui peut faire ça, parce qu'on a le temps de passer de A jusqu'à Z et d'expliquer les situations. Et c'est un peu comme le mode d'emploi. Et ça, c'est la force de l'enseignement. Ça va? Cet après-midi, on va se poser la question, on va tenter plutôt de répondre à la question, comment s'épanouir toute une vie avec la même personne? Est-ce qu'on peut finir par faire le tour d'une personne en disant, « Ça y est, écoute, ça fait 30 ans que je suis marié, je la connais, je le connais du gros orteil jusqu'à la pointe des cheveux, en autant qu'il en reste. » Ou, à quelque part, on peut arriver à un moment où on a fait le tour, puis on a l'impression qu'il n'y a plus rien, un peu comme dans la pensée que j'avais dans la session précédente. Regarde bien ce texte que j'ai retrouvé, je ne sais même pas qui est l'auteur. La question se pose. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la vie qu'un jeune couple en amour? Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un jeune amour naissant? Et la réponse est donnée, oui, il y a quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est le spectacle d'un vieil homme et d'une vieille dame finissant leur jour sur le même chemin. Ça ne marche plus. Ou la pile est morte. OK, c'est bon. Leurs mains sont noueuses, mais se serrent toujours encore et encore. Leurs visages sont couverts de rides, mais demeurent rayonnants d'amour et d'affection. Leurs cœurs sont fatigués, parfois usés, mais demeurent assez forts pour pouvoir aimer encore et prendre soin l'un de l'autre. Oui, il y a quelque chose de plus beau et de plus fort qu'un jeune amour, c'est un vieil amour. Dites-moi honnêtement, là, on rêve tous de finir avec notre petit vieux, notre petite vieille, super coquette encore. Pas trop l'idée, le botox aidant, ça permet de... Ma femme commence à me parler de cela. Je dis, chérie, je te garde comme je t'ai vu et comme je t'ai connu. Mais on a déjà cette image de vivre une vie paisible avec nos enfants qui viennent nous voir avec le problème. Non, nos enfants qui viennent nous voir, les petits-enfants qui viennent et tout cela. Ça va aller mieux que ceci? OK. Donc, on a tous cette image-là de paisible, de tranquillité et tout cela. Mais vous savez que c'est possible, ça existe. J'en connais, moi, des gens qui finissent bien, des gens. Puis surtout maintenant, avec l'augmentation de la longévité de la personne humaine, on vit beaucoup plus vieux qu'on vivait à une certaine époque. Il y a moyen d'expérimenter, en autant qu'on est préservé, bien sûr, de la maladie et tout cela, de préserver la qualité d'une relation. Mais bien sûr, encore une fois, ce vieillissement de notre couple ne se fait que dans la mesure où à chaque moment, à chaque instant de notre vie, on est ce qu'on doit être et on fait ce qu'on doit faire. On ne devient... Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le vieil adage qui dit, en fait, qui se manifeste par une question. Savez-vous ce que devient un jeune fou quand il vieillit? Un vieux fou. C'est ça que ça devient. Ça veut dire que le vieillissement... Et l'âge ne rend pas quelqu'un nécessairement plus sage. Ce qui rend quelqu'un plus sage, c'est les leçons qu'il tire de la vie et les expériences qu'il tire de ses expériences et comment il fait les correctifs nécessaires, comment, avec l'aide et la grâce de Dieu, il réussit à être transformé. C'est ça qui fait des changements. Le temps ne fait pas de changement. Le temps ne fait que compliquer les situations ou qu'empirer les situations. Donc, oui, il y a possibilité d'avoir un bel amour. Et il me disait pas de changer sans mon consentement. OK. Il y avait un petit délai. Là, il faut trouver c'est la faute à qui, OK? Non. Écoute, ce que tu vas faire, tu vas manœuvrer, OK? Parce que ça va me déconcentrer de jouer avec la petite camette, OK? Passe à la prochaine. Voici ce qu'on va faire pour les prochaines minutes. Je vais aborder avec vous un angle différent. 5 conseils pour les épouses et après coup, 5 conseils pour les maris. Okay? Donc, en fait, si mon épouse serait là, vous auriez probablement donné les 5 conseils pour les épouses parce que c'est elle qui a travaillé ça, on l'a travaillé ensemble, surtout elle. Premier point, assurez-vous de bien communiquer. On a parlé de la communication ce matin. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'apôtre Paul qui parle. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est un texte qu'on peut appliquer dans plein de dimensions. La communication, c'est pas simplement dans le couple que ça marche, c'est dans chaque aspect de la vie. Au travail, avec nos enfants et tout cela. Mais la communication, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand on parle de communication, on parle plus que des mots que l'on choisit. On sait, j'ai pas ça à l'écran parce que j'ai pas rien à dire sur la communication aujourd'hui, juste ce petit point-là, mais on sait en ce moment que sur une communication donnée, il y a à peu près 7% qui est de l'ordre du contenu. Ça, c'est les mots qu'on a choisis. Puis même là, les mots qu'on a choisis ne veulent pas tous dire la même chose. On parlait d'interculturalité, là. Moi, ma femme me dit parfois, t'inquiète, c'est une expression française. T'inquiète. Puis je réponds à ma femme, je ne suis pas inquiet du tout. Pourquoi tu me dis t'inquiète? Je ne suis pas inquiet, OK? Mais t'inquiète, ça veut dire ça va aller, t'en fais pas, oh c'est bon. Voyez-vous? Avant de décoder tout ça, on est juste dans les mots, là, OK? Donc, plein d'expressions qu'on utilise tous et chacun, qui fait quelque part, il faut les décoder. Ça veut dire que 93% de la communication, elle est non-verbale. Elle n'est pas avec les mots. Elle est avec l'apparence faciale, je crois que c'est de l'ordre de 70%, et après coup, c'est de l'intonation de la voix. OK? Donc, si ma femme me demande, Denis, m'aimes-tu? Puis j'y réponds, ben oui, tu sais bien que je t'aime. Voyez-vous mon intonation? Elle me dit, tu me tombes ses nerfs, mais tu m'énerves, veux-tu me lâcher? OK? Puis en fait, mais le contenu, c'est je t'aime. Alors, si ma femme me dit, je sais que tu m'aimes pas, je sors le transcript écrit de ce que je viens de dire, de je t'aime, tu sais bien que je t'aime. Mais l'intonation vient annuler le contenu. Regardez-moi ici un instant. C'est comme si le contenu s'en vient dans une direction, je t'aime, tu sais bien que je t'aime. Puis l'intonation dit, mais oui, tu sais bien que je t'aime. OK? Voyez-vous? Là, ça vient annuler. On appelle ça une annulation rétroactive. OK? C'est que ça vient d'effacer le message. Et quand cette intonation-là vient nous affecter, et le danger de beaucoup de couples dans la communication, c'est qu'il vient un moment où ils s'endurcissent dans le cœur à cause du ton, de la voix, de se faire parler. Puis là, en ce moment, si vous êtes en train de penser, vous dites, mais là, l'humanité, c'est pas si fragile que ça, là, quand même. Écoutez-moi bien, là. On n'est pas si fragile que ça, mais on n'est pas si fort que ça. On devient fort dans la mesure où parfois où on s'endurcit. Et là, c'est là que la tension se manifeste dans la maison. Donc, dans la communication, il faut faire attention à comment on s'exprime dans notre visage. Vous savez que les bébés, à partir de l'âge d'à peu près 3 mois, lorsqu'ils commencent, les yeux commencent à s'ouvrir, vraiment, ouais, ils commencent déjà à détecter l'émotion dans le visage de leur mère, sans comprendre, bien sûr, sans décoder parfaitement en disant aux mamans, mais ils savent expérimenter un sentiment agréable ou un sentiment désagréable. Ils ne peuvent pas l'expliquer, parce que l'intelligence n'est pas développée, mais ils voient déjà, puis ça crée quelque chose à l'intérieur d'eux. Donc, il faut prendre conscience de cela. Et moi, je crois que lorsqu'on est chrétien, il faut être chrétien jusqu'au bout. Donc, un chrétien, ça pense comme un chrétien, ça marche comme un chrétien, ça parle comme un chrétien. Donc, parfois, puis je ne veux pas paraître rigide, je ne suis pas un homme de nature rigide, mais un chrétien, ça donne un mode de comportement qui doit être différent de celui qui ne connaît pas Dieu. Donc, on doit porter un fruit, on en a parlé ce matin. Et ce fruit-là se manifeste dans des actes concrets, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de nous parler, dans les valeurs qui nous animent et tout cela. Si on ne marche pas comme on doit marcher, on n'aura pas le résultat qu'on est en droit d'avoir. Il y a God's way, la façon de Dieu de faire les choses, puis il y a la façon de cette société autour de nous. Mais maintenant, si vous voulez finir comme la société de l'autre côté, regardez les statistiques de ce qui se passe dans ce monde. Si vous faites comme eux, vous allez récolter la même chose qu'eux. Mais nous, on a quelque chose de supérieur à cela parce qu'on a eu une révélation. On a été privilégiés d'avoir un Dieu qui s'est révélé à nous et d'un livre qui nous permet de nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices et d'informations pour comment se contenir. Quand je parle ainsi, vous voyez bien que dans mon ton de voix, je ne suis pas en train de vous condamner. Je suis en train de faire appel à votre raison en disant, c'est vrai, si je suis chrétienne, mais je dois parler comme une chrétienne, avec mes amis, avec mon mari, ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues au bureau. Puis si je suis un chrétien, je dois faire la même chose. Si vous êtes un patron chrétien, vous devez traiter vos employés comme un patron chrétien. Si vous êtes un employé chrétien, vous devez réagir à votre patron comme si vous étiez chrétien. On est chrétien ou on ne l'est pas. On n'est pas chrétien dimanche matin, on est chrétien à chaque jour de notre vie, 24 heures par jour. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelques années de cela, j'écoutais la télé, puis je suis tombé sur un entretien télévisé entre Stéphane Bureau, vous connaissez l'intervieweur québécois Stéphane Bureau, et Elie Wiesel. Je ne sais pas si Elie Wiesel, ça vous dit quelque chose. Elie Wiesel, c'est le prix Nobel de littérature, le prix Nobel de la paix 1968. Elie Wiesel, c'est un des premiers rescapés d'Auschwitz qui a écrit sur l'Holocauste, sur la Shoah. Et Elie Wiesel, c'est un écrivain qui est décédé il y a 3-4 ans, il restait maintenant aux États-Unis. Il a été récupéré par une famille française qui a survécu, bien sûr, il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il a été récupéré par une famille française, il a grandi à Paris, il est devenu un journaliste, il est devenu un écrivain. Son premier livre s'appelle La Nuit. Et un jour, c'est un auteur que j'ai lu sa biographie, j'ai lu son journal, c'est un homme très riche, c'est un juif. Un jour, Stéphane Bureau l'interviewait à la télé, puis il lui pose une question que les journalistes posent. Tu dis, pourquoi il a posé cette question-là? Puis il a dit à Stéphane Bureau, il a dit à Elie Wiesel, Il dit, si vous n'étiez pas juif, que seriez-vous? Moi, j'écoute ça, mais je dis, c'est quoi cette question-là? Si j'étais pas juif, qu'est-ce que je serais? Et il y a eu 4-5 secondes interminables. Puis Élie Wiesel a répondu, si j'étais pas juif, je n'existerais pas. Wow! Là, j'ai eu une révélation. Nous, le christianisme, c'est plus souvent contrairement à quelque chose que l'on professe. C'est une église où l'on va, une dénomination à laquelle on appartient. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas cela. C'est une identité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est dans moi. C'est identitaire. Donc, si on avait à vous poser la question, si on avait à me poser la question, Denis Morissette, que serais-tu si tu n'étais pas chrétien? Je devrais répondre, je n'existerais pas. Parce que Christ est ma vie. C'est ce que je suis. C'est... Moi, ça fait plus longtemps maintenant que je suis chrétien que je ne suis pas chrétien. J'étais 20 ans non chrétien et ça fait 43 ans que je suis chrétien. Je ne peux plus ne pas être chrétien. Je vais tomber dans un vide immense. Je ne peux. Il est trop tard pour me déconvertir. OK? C'est de ma nature maintenant. C'est trop ma vie, c'est trop. Je ne peux pas vivre. Et vous, ça, c'est l'identité. Cette identité-là se reflète par des gestes. Et être chrétien ne veut pas dire être religieux. Ça veut dire porter en nous cette vitalité, cette vie de Jésus. Donc, ça se reflète par nos paroles. Nos enfants nous observent. J'ai 4 garçons, moi, avec la concentration de testostérone que peuvent avoir des gars. Mes gars, c'est des gars. Quand ils voient leur père prêcher, si je fais le bouffon en avant, si je prêche des choses que je ne mets pas en pratique, mes gars vont débarquer et vont me dire, père, franchement, là, à quoi tu joues et tout ça, voyez-vous? Donc, il faut vivre une vie à la hauteur de ce qu'on professe. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être parfait? Non. Parfois, on n'est pas parfait, mais à ce moment-là, on est capable de le reconnaître tout simplement. Est-ce que j'ai manqué mon coup, je me suis énervé, c'est un demande pardon, et les gens vont nous respecter au-delà de nous, que ce soit notre mari, notre femme ou nos enfants. Donc, mesdames, premier point cet après-midi, assurez-vous de bien communiquer. Chialer, crier, c'est pas communiquer. C'est ventiler des frustrations, c'est pas la même chose. On communique avec grâce, avec sel, avec douceur, avec équilibre, avec tout cela. Je sais que vous pouvez vivre des choses, mais encore une fois, la fonction d'une communication n'est pas de ventiler toutes nos frustrations, mais davantage de bien passer le message qu'on doit passer. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment je dois répondre à mon mari, comment je dois répondre à mon fils, comment je dois répondre à ma fille et tout cela. Donc, ça se joue au niveau du contexte. Deuxième élément, mettre Dieu en priorité. Ça paraît simple, mais on est chrétien. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai vécu des périodes très, très difficiles dans ma vie. Juste vous donner quelques exemples. J'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, foudroyé par un cancer en 3 semaines. Donc, je sais c'est quoi d'être un orphelin de papa. J'avais 8 ans. Ça a changé le cours de ma vie. J'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans, foudroyé par un cancer en 3 semaines. OK? J'ai perdu ma femme il y a 7 ans de ça, en 2010. À automne 2010, ça fait 8 ans cette année. Foudroyé par un cancer en 3 mois. J'ai perdu mon frère il y a quelques années ici, qui restait ici, pas très loin, à Pointe-du-Lac, qui est mort de façon prématurée. Je sais c'est quoi d'exposer à des choses. J'ai eu des garçons avec ce qu'est l'adolescence, ce qu'est cette réalité-là. OK? Souvent, les gens disent, Pasteur Denis, vous êtes un spécialiste, scolarisé, maîtrise en tout ça. Ma réponse à toutes ces choses-là, j'ai passé au travail parce que j'ai fait de Dieu ma priorité. Je crois encore, peut-être vous avez trouvé que c'est vieux jeu, mais je crois encore à l'importance d'avoir les deux genoux collés au sol, la tête dans le plancher et de plaider auprès de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire, j'ai besoin de toi. Dieu est là pour répondre à la prière. Et imaginez que lorsqu'on est deux ensemble à faire ça, sans fausse pudeur, ayez pas peur d'être humilié. La plupart des couples ne prient jamais ensemble. Prier ensemble, ça va vous unir. Pas en vous jugeant de t'avoir vu ce que tu as dit, de t'avoir vu ce que tu as demandé. Coupez-vous pas de cela. Arrêtez de censurer, de contrôler la vie de l'autre autour de vous. Là, je parle aux dames. Mesdames, c'est vous quel est le verset préféré des épouses? Non. Instruis ton mari dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Mesdames. En tout cas, on ne peut pas reprocher aux dames de ne pas avoir d'agenda. De plan. Nous, les gars, on manque de plan. Mais eux, elles, ne manquent pas de plan. Donc, souvent, ils essaient de confectionner leur mari, les amener dans la voie qu'ils doivent suivre. C'est un verset pour les enfants. cessez de materner votre mari. Ne bougez pas, messieurs, riez pas trop, parce que je m'en viens sur votre cas tout à l'heure, OK? Criez pas victoire. Je suis quand même content depuis le temps que je le dis ça à ma femme, mais moi, quand j'y dis, ça passe pas. Comprenez bien. Faites de Dieu votre priorité. Faites de Dieu votre priorité, c'est le début. Et conjuguez tout cela et vous allez voir que Dieu répond aux prières. Je vous le dis, je sais que quand je m'adresse à des chrétiens de longue date, on a appris à s'habituer à ce que Dieu ne réponde pas aux prières, puis à trouver une explication pourquoi Dieu n'a pas répondu aux prières. Mais à la longue, d'accord avec moi, on en devient déçu. J'aimerais ça que Dieu réponde à mes prières. Mais pour cela, il faut que je sois capable de découvrir c'est quoi les obstacles. Puis parfois, l'obstacle à la prière, c'est vous, c'est qui? C'est moi-même. Des choses dans ma vie, des attitudes dans ma vie qui font en sorte qu'il faut que je nettoie tout cela. Ça va? Troisièmement, mesdames, apprenez à faire confiance. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. L'apôtre Pierre va répéter dans la première épître de Pierre avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Si on est hyper honnête, quand on regarde ce texte-là, surtout le texte d'apôtre Paul, dans le texte, le grand chapitre sur l'amour dans Corinthiens 13, excuse tout, crois tout, la part du temps, on le conteste dans notre cœur. Bou, crois tout. Si tu penses, je vais me laisser faire. Si tu penses, je vais. OK. L'apôtre Paul ici parle d'une des grandes vertus, c'est cette question d'amour. Il y a tout un chapitre qui parle de cela. Donc, on ne peut pas le réduire simplement à tout cela. Mais on arrive tous dans une relation avec des blessures du passé. Moi, je crois que l'ensemble de notre vie adulte consiste à corriger ce qui s'est passé dans notre enfance, dans notre adolescence. On passe notre temps à rétablir tout ça. Dans plein de dépenses. C'est pas toujours énorme. Là. Je parle pas que vous avez tous été abusés. Moi, j'ai une bonne famille, mais mes blessures sont rattachées à la perte d'un père, à la perte d'une mère, et tout ce que ça déconstruit notre famille. Voyez-vous, c'est pas, il n'y a pas d'abus dans tout cela. Il y a des manques. Je viens d'un univers de gars, où les gars n'expriment pas beaucoup l'amour. Une conversation entre deux Morissettes, là, je ne parle pas de mes fils, je parle de mes frères, ça ressemble à cela. Une fois par année, salut, ça va, toi, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose, toujours la même chose, puis toi, ben, c'est la même affaire. OK, mais c'est bon, salut, à l'année prochaine. C'est super profond, hein? Ça tisse des liens, hyper, ça, c'est deux morts ensemble. Bon, je caricature avec ça, là. Vous comprenez un peu à quoi je fais allusion. Donc, il faut être capable d'aller au-delà de cela et de comprendre que Dieu nous a mis ensemble. Pour qu'on prenne soin l'un de l'autre, il faut faire confiance à l'autre. Mais la confiance, c'est facile comme mot. Et quand c'est, vous savez, confiance vient du latin fides fidei, la fiance de confiance, qui veut dire la foi. Donc, quelqu'un qui est plein de confiance, quelqu'un qui est plein de foi, quelqu'un qui est méfiant, c'est quelqu'un qui manque de foi. Littéralement, là, dans l'étymologie, c'est un peu ça. Donc, parfois, on est échaudé. Puis, parfois, on est échaudé dans les premières années du mariage. Mais il faut la rebâtir, cette confiance. Il faut apprendre à se fier à l'autre. Il faut apprendre à refaire confiance. Je ne veux pas donner tout de détails, mais ma femme actuelle, elle a eu des périodes très, très difficiles dans le passé. Elle a vécu des choses très, très difficiles. Donc, le fait qu'elle me rencontre, le fait qu'on se rencontre et que naisse quelque chose de super beau, qu'on se marie, qu'elle vienne au Canada, réalisez-vous qu'elle devait me faire confiance. Est-ce que, moi, là, je suis conscient, hyper conscient, de la responsabilité que j'ai à son égard. Si demain, je laisse tomber ma femme, elle est foutue. Parce qu'elle a tout abandonné. Plus d'emploi, plus rien, tout ça. Comprenez-vous là, le pouvoir que ça me donne? Je crains Dieu, je l'ai dit ce matin. Ce qui fait que jamais je n'aurai ça. Mais je fais l'effet inverse. C'est que je l'entoure, je prends soin d'elle, parce que faut baser la confiance. Et elle, son défi à elle, c'est quoi? C'est de me faire confiance. Et moi, mon défi, c'est d'être digne de sa confiance. Parce que la confiance, là, ça ne se reconstruit pas par magie. C'est en faisant confiance à quelqu'un, quand on a été trahi, quand on a été abandonné, quand on a été blessé, de refaire confiance à nouveau à un être humain, c'est un processus. C'est un peu comme, on va se prendre en québécois, c'est un peu comme traverser une rivière au printemps. T'es mieux tâter la glace, OK? Parce que tu sais, on y va peu à peu. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux y aller, là, OK? C'est comme ça qu'on reconstruit la confiance. Donc, vous devez être capable, quand vous communiquez l'un avec l'autre, de découvrir est-ce que quelque part cette confiance a été mise à mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit reconstruire? Puis des fois, ça nous appartient. Vous remarquez, quand je parle de moi, je ne parle pas avec pudeur, blessure. Je ne suis pas déprimé, moi. Mais je sais où sont les blessures. Je sais ce que j'ai dû faire pour les résoudre. Les blessures, c'est comme des blessures de guerre. À la nuit, on en vient fier à la longue parce qu'on dit c'est ça qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Voyez-vous? Donc, il faut la rebâtir, cette confiance-là. Donc, mesdames, en particulier, il n'y a pas d'homme parfait, votre mari n'est pas parfait, mais ayez cette ouverture au dialogue à dire, je crois qu'il faut que je te fasse confiance, il faut que je rebâtisse ma confiance, et j'ai peur un peu. J'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'être déçu, mais je veux faire confiance. Donc, je prends cette décision de faire confiance, et ça, c'est une preuve d'amour. De croire à nouveau, de recroire à nouveau, et de faire en sorte que tout ça ne stagne pas, tout ça ne se refroidisse pas. Vous êtes toujours là?
Oui.
Quatrième, ayez du respect. On en a parlé un peu ce matin, il y a un homme qui a posé la question, qu'est-ce que j'entendais par respect? Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Suivez bien ma pensée. Je vais revenir sur ça un peu plus tard en parlant des hommes. Il y a des choses que la Bible dit, parfois, qui est intéressant. Et parfois, c'est drôle ce que la Bible ne dit pas. On se pose la question pourquoi elle n'en parle pas. Par exemple, la Bible ne dit pas « Femmes, aimez vos maris ». Vous ne trouverez pas ça. Vous allez seulement trouver une référence dans Tite où ils vont dire « Ils encouragent les personnes plus âgées, les dames plus âgées, à encourager les jeunes à aimer leur mari, les jeunes femmes à aimer leur mari. » C'est ce que j'appelle une exhortation indirecte. Ce n'est pas comme un commandement. Parce que dans Éphésiens, l'apôtre Paul va dire « Marie, aimez vos femmes ». Puis il va le répéter trois fois. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Mais ça ne dit pas, vous ne voyez pas d'injonction directe en disant « Femme, aimez vos maris ». Pourquoi? On a besoin d'amour, nous, les gars? Nous, les hommes? Pourquoi ça ne dit pas cela? Est-ce que vous pouvez tenter une réponse? Parce que? C'est plus naturel chez la femme. La maternité, le lien à l'enfant, la proximité, l'allaitement... On a beau remettre en question tout le côté de l'univers transgenre, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, nous, comme hommes. OK? Non accoucher et non allaiter. À moins qu'on se fasse greffer des biberons, je ne sais pas quoi. Là. La réalité est la suivante. La réalité est la suivante, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont du type féminin. OK? Par contre, l'apôtre Paul, on va le voir tout à l'heure, je ne prolongerai pas ma pensée là-dessus, va le dire aux hommes d'aimer leurs femmes. Il va le répéter trois ou quatre fois. Par contre, la Bible dit à la femme, respecte ton mari. Fait que ma compréhension, je pense que l'apôtre Paul est conscient à la fois de ce que le Seigneur, de comment le Seigneur l'alimente dans des inspirations. Mais je suis d'accord, je crois aussi qu'il était à l'affût de la réalité de la société dans laquelle il vivait. Je crois pas. L'apôtre Paul n'est pas un moine caché en haut d'une montagne, dans une grotte, dans un monastère, en train de réfléchir aux conditions de la vie. Il est exposé, dans tous ses voyages, à la réalité de la condition humaine, à une époque où le monde entier était en train de changer. Puis, vous savez, beaucoup d'observateurs m'ont dit que le monde dans lequel on vit en ce moment, avec tous les bouleversements, ressemble un peu au monde de l'époque, toutes choses considérées, bien sûr, avec la technologie, l'avancement et tout cela. C'est un monde en changement, c'est un monde où l'Empire romain régnait, les routes étaient ouvertes, le commerce international et tout ça, les pays commençaient à être décloisonnés. Donc, il était au fait de la réalité. Et lorsque l'apôtre Paul parle de respect de la femme, je veux l'interroger plus loin. Je pense qu'il veut l'amener, je pense qu'il met le doigt sur une tendance chez les femmes, assez perfectionnistes, de toujours voir ce qui ne marche pas dans la vie de leur mari. Puis à la longue, ils perdent le respect. Ils perdent le respect qu'ils ont pour lui. Si vous vous mettez à focaliser sur tous les défauts des personnes, je vous annonce une nouvelle, vous allez tous les trouver. Mais on ne peut pas vivre avec cela. Mais l'amour couvre des choses. L'amour passe par-dessus des choses. OK? Moi, je ne veux pas que ma femme focalise seulement sur mes défauts. Je ne veux pas passer ma vie à regarder ses défauts. Elle en a. Je ne sais pas lesquels, là. Je ne les ai pas trouvés encore, mais je vais les trouver. Il va finir par les trouver. Bon. Mais je sais que j'ai des défauts. Des fous mignons, là. Bon. On ne faisait pas ma vie, là. Okay? Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'on ne grandit pas en focalisant sur toutes nos faiblesses et nos défauts, mais en mettant l'emphase beaucoup plus sur nos qualités. Ça ne veut pas dire qu'on masque ça. Ça ne veut pas dire qu'on les ignore et qu'on les nie. Ça veut dire qu'on ne focalise pas là-dessus parce qu'on ne pourra pas évoluer comme ça. OK? Donc, il faut avoir du respect. Et le respect, c'est dans le regard que l'on pose sur la personne. Et le respect, c'est à la fois dans des dimensions physiques de ce que je vois, dans des dimensions d'attributs, de qualité psychologique, de qualité spirituelle et tout cela. Et vous devez apprendre à respecter. Vous avez le mari que Dieu vous a donné. Et il faut être capable, encore une fois, de le traiter de cette façon-là. Et vous savez, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Goethe, qui a dit un jour, « Traitez quelqu'un comme il le mérite, et vous allez en faire un être pire qu'il est. Traitez-le comme vous voulez le voir devenir, et vous allez le transformer. » Okay? C'est puissant. Je le répète. Traitez une personne comme elle le mérite et vous allez en faire un être pire qu'il est. Traitez-le comme vous voulez le voir devenir et vous allez le transformer. C'est vrai pour nos ados, c'est vrai. Puis vous savez que c'est la propension qu'on a à traiter les gens selon ce qu'ils méritent. Tu te ramasses jamais, tu fais toujours aussi, tu oublies tout le temps. Voyez-vous? À la place, on a un discours beaucoup plus constructif. Qu'est-ce que je voudrais qu'il devienne? Comment je peux être fier? Comment je peux? Bien, je vais le traiter différemment et ça m'appartient à moi. Cinquième petit conseil aux dames, maintenez une intimité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ici, bien sûr, cette dimension d'une seule chair fait allusion à ce que j'ai mentionné au tout début ce matin, toute la qualité de la relation qu'on a ensemble, mais c'est aussi une question d'intimité. L'intimité, c'est pas simplement sexuel, mais c'est aussi sexuel. C'est des moments dans l'union d'un homme et d'une femme, des moments où on est parfois même les plus vulnérables ou les plus proches l'un de l'autre. On sait en ce moment, et ça serait tout un sujet peut-être pour l'avenir, on sait en ce moment que 50% des couples ont des difficultés d'ordre sexuel. Parfois, c'est pas des problèmes majeurs, parfois c'est la fréquence, parfois c'est la panne de désir, parfois c'est... Et c'est évident que... moi, ma belle-mère, ma première belle-mère, au début de mon mariage, me disait toujours, quand ça ne marche pas dans le lit, ça ne marche pas ailleurs. Okay? Moi, je répondais, belle-maman, quand ça ne marche pas ailleurs, ça ne marche pas dans le lit non plus. Okay? Parce qu'il y a plein de gens, des gens de cette société autour, savent plus que jamais comment faire l'amour, mais ils ne savent pas comment aimer. Okay? Ils savent toutes les techniques du Kama Sutra, tout ce que vous pouvez imaginer, mais ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas reliés, ils ne sont pas intimes. Ils ont des relations one night stand qu'on appelle. On n'est pas dans l'intimité, on n'est pas dans la proximité, on n'est pas là. À l'inverse, beaucoup de couples sont ensemble, vivent ensemble, mais ils n'ont pas cette intimité-là. Ils n'ont pas cette parce que ça ne va pas bien dans l'adresse de la vie du couple. Et je suis conscient et surtout les dames le disent bien. J'ai pas le goût, ça éveille pas mon désir. Pourquoi? Mais parce qu'il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. C'est vrai. Mais on doit quand même mettre une énergie. Parce que le problème qui arrive, là, c'est que beaucoup de dames avec les années cherchent ce que j'appelle les conditions gagnantes. Il faut que ce soit le bon moment, dans le bon état, à la bonne place. Il y a tellement de conditions, là, que. On ne peut pas, les enfants sont là. On ne peut pas, je suis fatigué. Mais là, je travaille demain matin. On a plein de raisons pour justifier. Mais en fait, c'est simplement une manifestation. Parce qu'à un moment donné, vous savez, moi, j'ai travaillé sur des cas d'adultère. C'est fou comment ils n'ont pas le temps pour ceci. Puis tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un au bureau, je ne sais pas quoi, la secrétaire, les cas classiques, là. Puis là, ils ont toujours le temps. Puis ils ont plus que le temps. Il faut qu'ils manœuvrent tellement pour cacher des choses qu'ils jouent avec toutes les stratégies inimaginables. L'idée, c'est que faut s'investir, on en a parlé ce matin, cet après-midi, dans cette union-là, et ça met en cause, ça met en perspective plutôt toute la dimension de la sexualité. Donc, pour beaucoup de vous, mesdames, mais je le dis avec douceur, les hommes ne sont pas tous des maniaques sexuelles qui pensent juste à ça 24 heures par jour. C'est pas vrai. Et plus, moins un homme va avoir d'intimité avec sa femme, plus il va y penser. Et plus il va en avoir, moins il va y penser. OK? C'est comme l'appétit, ça. C'est comme, vous êtes obsédé par la nourriture quand vous avez faim. Mais c'est très rare, vous êtes, à moins que vous soyez un problème d'obésité, pas d'obésité, mais de boulimie, plutôt, c'est ce que je cherchais comme terme. Après avoir mangé, absolument, vous êtes repu, puis c'est fini. Vous n'y pensez plus. Donc, il y a un cycle. Et ce cycle-là fait partie aussi de la proximité, de l'intimité qu'on a avec nous. On est bien ensemble. La sexualité, ça doit évoluer dans le temps aussi. Quand on est jeune, couple, on a le goût de performer, on s'imagine. Quand on est vieux, ça change beaucoup plus en tendresse, en affection, quelque chose de beau. Il y a quelque chose de plus tendre, de plus... On a vécu ensemble. On a souffert des choses. On a vécu des expériences parfois douloureuses. Il y a toute une tendresse qui doit être là. Et on doit travailler dans ce sens-là. C'est un moment de rapprochement qui n'est pas, évidemment, exclusivement initié par les femmes. Mais absolument, c'est justement l'inverse. Et c'est à vous, mesdames, de prendre un peu votre liberté dans tout ça. Avancez un petit peu dans tout ça. On ne peut pas en parler plus longtemps de cela, mais c'est un des sujets les plus importants dans la vie du couple. Ça va? Allons, passons maintenant à 5 conseils pour les maris. Messieurs, attachez votre ceinture. On décolle, OK? Rangez votre tablette, OK? Non, il n'y a pas de pause. OK. Allons-y pour le premier conseil. Assumez votre leadership. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ, en effet, est le sauveur de l'Église qui est son corps. Messieurs, écoutez-moi. On va se parler directement. Ne dites jamais à votre femme, il faut que tu sois soumise. Le texte ne dit pas, messieurs, assurez-vous que vos femmes soient soumises. Est-ce que le texte dit cela? C'est marqué quoi? C'est marqué femme. Est-ce que vous êtes une femme? Messieurs? Non? Bon, mais ça ne s'adresse pas à vous. Ça. Fait que lisez-les pas ce verset-là. Occupez-vous de votre portion à vous. Écoutez-moi, je vais aller loin avec cela. Peut-être que Damas, peut-être la dernière fois que je suis ici, mais en tout cas, je vais me mouiller. Le texte, femme, soyez soumise, s'adresse aux femmes. Donc, c'est à vous, mesdames, de vous assurer, de comprendre ce que ça veut dire, puis de relever le défi de cela. Vous, messieurs, votre partie à vous, c'est quoi? Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça, c'est le leader. Le chef, c'est pas le boss, c'est pas le patron, OK? C'est pas le dictateur, c'est pas le dominateur. C'est le leader, celui qui donne une direction. Et tous les leaders, et c'est une base de leadership, montrent le chemin par ce qu'ils sont, OK? Messieurs, écoutez-moi bien, si vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, puis elle ne se soumet pas, c'est elle qui a un problème. Moi, je ne refuserai pas de me soumettre à Jésus, parce que Jésus veut mon bien, ma protection, il veut ma restauration, mon rétablissement, il veut ma croissance, et tout cela. Alors, toutes les résistances dans le couple, c'est parce qu'on essaie de forcer quelque chose envers quelqu'un. Le leadership chez l'homme, c'est important. Puis toutes les femmes que je connais, puis vous savez, je vais le dire, je le répète encore, j'ai passé des heures avec des femmes en consultation, des retraites de couple, j'en ai fait en 40 ans, des dizaines, des centaines. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ils ont tous dit, moi j'aimerais que mon mari assume son leadership. Mais c'est moi qui dois prendre les décisions, c'est moi qui dois le pousser, c'est moi qui dois. Même mesdames, si vous dites à votre mari, chérie, il faudrait que tu assumes ton leadership, vous êtes en train d'assumer à sa place, parce que vous lui dites quoi faire. Le vice-président dit au président, « Hey, président, il faudrait que tu présides. » Mais oui, ça ne peut pas marcher comme ça, OK? Donc, les gars, vous devez assumer cela. Maintenant, je sais que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'encore une fois, beaucoup d'hommes ne sont pas là. Ils sont là physiquement, mais un peu comme je mentionnais ce matin, le projet familial, le projet matrimonial, ils ne sont pas là. Ils ont des préoccupations face au bureau, face à leur vie professionnelle, face à des questions financières. La plupart des hommes sont des excellents pourvoyeurs. Donc, ils se préoccupent davantage de cela, mais ils sont absents dans le leadership de la maison, incluant le leadership spirituel. OK? Les hommes sont à l'Église dans la mesure où ils sont impliqués dans quelque chose, mais en dehors de cela, c'est toutes les femmes qui sont là. Dans les réunions de prière, partout. Maintenant, il y a des raisons derrière tout ça. Je ne le dis pas en contact avec un jugement, je le dis avec une incitation à assumer le rôle. Dieu vous a placé dans une position, il faut que vous l'assumiez, puis vous l'assumiez sainement, sagement. Et c'est non seulement vrai pour votre femme, dans le sens d'assumer notre leadership, mais c'est vrai pour la famille en entier. Vous savez, il y a des saisons dans la famille, dans le mariage, où peut-être vous allez trouver ça, vous pourrez le contester si vous voulez dans les questions tout à l'heure. Je crois que les femmes sont très efficaces avec les enfants, dans l'enfance. Sont catineuses, sont chaleureuses, sont affectueuses, sont responsables, ils connaissent tout ce qu'il faut connaître pour les enfants. Mais arrive à l'adolescence, et moi, ma conviction, c'est que l'adolescence, c'est un travail d'homme, surtout avec des adolescents. OK? C'est pas évident, cette période-là. C'est une période tumultueuse. OK? Je dis souvent à la blague, la crise d'adolescence, c'est pas une crise tant pour les ados qu'une crise pour les parents. OK? C'est eux qui tombent en crise aussi. Et faut être solide. Ça prend un homme là, pour gérer tout ça. Puis là, j'ai rien de violent, j'ai rien de macho dans ma pensée. J'ai juste dit, c'est un job de gars. OK? Dieu a créé la famille pour qu'on soit deux. On a chacun des forces, chacun des faiblesses. On est moins dans le chouchoutage, nous, parfois. Mais il y a des moments donnés où on doit prendre des décisions avec force. Il faut que tout ça soit sécurisant pour tout. Les familles ont besoin d'un père. Moi, je sais ce qu'est ne pas avoir de père et tous les faits que ça fait dans la vie. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, vous avez ce rôle-là. Il faut l'assumer. Vous ne savez pas trop comment. On est dans la vie moderne. Il y a plein de livres sur le sujet. Maintenant, on n'est pas dans l'état où on n'a pas accès à de l'information. On a accès à de l'information. c'est des sujets qu'on doit adresser. Donc, il faut assumer notre leadership dans la famille, assumer notre leadership dans le cadre du mariage. Regardez bien la prochaine diapo. Là où règne l'amour, pas de volonté de pouvoir. Là où prédomine le pouvoir, l'amour n'a pas sa place. L'un à l'autre porte ombrage. Donc, assumer le leadership, c'est pas un jeu de pouvoir. C'est pas un jeu de domination. Vous savez, le problème, là, écoutez-moi, messieurs, là, j'ai beaucoup de compassion pour les femmes, parce que c'est pas facile d'être une femme dans ce monde actuel. Il y a 7-8 mois, j'ai reçu des amis à la maison qui viennent d'un autre pays. Et le gars est assez macho, puis c'est un pasteur en plus, un pasteur assez âgé. Puis autour du repas, il a lancé quelque chose qui était vraiment désobligeant envers ma femme. Vraiment désobligeant. Ma femme, tout le monde l'a vu autour de la table, puis lui a fait comme si rien n'était. Et après le repas, je lui ai dit, viens avec moi, il faut qu'on se parle. OK? Mais là, il est arrivé avec une approche très patriarcale. OK? Je suis pasteur, je suis l'homme, c'est le côté patriarcal. Tu sais, patriarcal. Je lui ai dit, écoute, on va refaire un peu ta théologie, on va refaire un peu ta sociologie. Qui fait les guerres sur la planète Terre, les hommes ou les femmes? J'entends pas la réponse. Les hommes font la guerre. Qui viole sur la terre, les hommes ou les femmes? Qui font les attentats sur la terre, les hommes ou les femmes? Voyez-vous? Donc, les gars, on a un problème. On a un problème dans la nature profonde masculine, OK? De violence, de gestion. Vous avez vu beaucoup de dictatrices, vous, dans des pays? Pas Margaret Thatcher. Elle pour faire la blague, mais elle n'était pas du tout parce qu'elle était dans une démocratie. On a beau l'appeler la dame de fer, c'est pas une dictatrice. Ça, c'est des hommes. Voyez-vous? Les femmes, puis même plus ça, un homme tombe en adultère, c'est toujours la faute de la femme. Regardez l'État islamique, là. On est dans un univers. Ils sont toujours coupables. Ils sont même coupables du péché des hommes. Et ça fait partie de la culture évangélique aussi. Si une femme arrive, elle va être une chute, elle va être une occasion de chute pour l'homme. Lui, il n'est pas responsable, il n'est pas capable de gérer, il ne peut pas gérer ses hormones, sa testostérone, maintenant il est trop fragile, c'est toujours la femme qui va faire tomber. C'est fou le concept. Assumons-nous comme homme, avec dignité, avec contrôle, avec tout cela. Les femmes ne sont pas responsables de ce que nous vivons. On doit assumer notre leadership pleinement. Je ne sais pas si ça vous rend inconfortable, mais vous allez avoir besoin de beaucoup d'arguments pour me faire changer d'idée, parce que je l'ai tellement revalidé dans plein de pays à travers la planète, parce que c'est ça le problème. On est là pour les protéger, on est là pour... Maintenant, mesdames, là, je ne sais pas que vous êtes parfaites, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup des problèmes de cette planète qui sont dus à la nature masculine. Donc, l'amour, c'est pas un jeu de pouvoir, c'est pas une domination, c'est le contraire. En fait, quand on domine, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer? T'as pas le choix, là, je te demande de m'aimer. Non. C'est quelque chose qui vient volontairement, et le sentiment vient volontairement qu'on est dans un contexte sécuritaire à cela. On va y revenir dans quelques instants. D'ailleurs, c'est mon prochain point. Deuxième point. Aimer comme Jésus, messieurs. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elles. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est trois répétitions de Marie, aimez vos femmes dans ce chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Donc, c'est répétitif. Je reprends un peu ma pensée tout à l'heure. C'est drôle que l'apôtre Paul dise aux gars, vous devriez aimer vos femmes. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Trois fois, il répète. Pourquoi il répète? Parce que c'est pas ce qu'il voit devant ses yeux. C'est parce que c'est pas ce qu'il voit à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul adresse une situation. Toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il corrige, il nuance, il explique, il redresse, il peaufine. Et là, il arrive dans la question du mariage. Puis les gars, oubliez pas, hein, vous devriez aimer vos femmes. Ah ouais? Les gars veulent faire la guerre, les gars veulent faire du commerce, les gars veulent faire ci, Oui, mais ici, c'est pas ça. Le christianisme est venu pour changer les choses. Et ici, bien sûr, il parle de l'amour, d'aimer nos femmes. Bien sûr, d'aimer de façon générale, d'aimer nos femmes. La prochaine diapo, c'est une définition de l'amour qui provient de mon père spirituel aux États-Unis qui s'appelle Richard Dawkins. Et c'est vraiment la meilleure définition de l'amour. Regardez bien. Prochaine diapo. L'amour est un effort constant. Bien sûr, c'est pas simplement des hommes envers des femmes, c'est aussi l'inverse, mais en ce moment, je l'adresse pour les hommes. L'amour est un effort constant et persistant de ma part afin de créer pour ma femme ou mon mari le contexte propice pour qu'il devienne ou qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire une personne épanouie. Je répète, mais je l'ai répété en sens masculin. L'amour est un effort constant et persistant de ma part afin de créer pour ma femme le contexte propice pour qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire une personne épanouie. Donc, vous pouvez le féminiser aussi, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que véritablement aimer dépasse la notion de sentiment. Mais toute notre société est construite sur le fait si tu ressens, tu aimes, si tu ne ressens plus, tu n'aimes plus. Ici, l'amour est un effort. Elle dit, un effort, il faut que je m'efforce. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Je vais vous donner un exemple personnel. Je ne sais pas à qui j'ai compté. Moi, j'étais ici d'avoir des questions ce matin que le quatrième fils qui est né au monde, qui s'appelle Thomas. Savez-vous combien de temps, après l'accouchement, Thomas a été agréable? 4 jours. Quand il est sorti de l'hôpital, c'était l'enfer. Thomas a pleuré pendant 1 an. Est-ce que déjà, certains de vous avez eu un bébé qui a pleuré? Vous allez me comprendre, OK? On devient dingue. Il pleurait toujours. Puis là, on a tout essayé. Les prenait dans la voiture, ils ne dormaient pas dans la voiture. On faisait 1 heure de route, pendant 1 heure, OK? J'ai essayé, Louis, la sécheuse, je l'ai essayé, je l'ai mis dessus, là. J'ai même pensé à le mettre dedans, OK? OK? Mes belles-sœurs, les sœurs, les femmes de mes frères, OK, on va te l'endormir, ton petit. On va t'endormir, ça, espèce d'incompétent, tu vas voir. Les amis KO, toutes les belles-sœurs, OK? Impossible de dormir, OK? Ma femme était cernée jusqu'ici, là, plus capable, était vert, OK? Tout le monde en dépression. Celui qui est né avant lui, William, je me souviens pas où il est cette année-là. Je ne sais pas où il est. On n'a pas de souvenirs. J'en parlais avec mon fils aîné. On a l'impression que William n'était pas dans la maison. Il était là. Il était bien. Il était tellement monopolisé, tout cela. Ça a changé ma théologie de l'enfer. Oubliez les flammes en enfer. C'est des bébés qui pleurent pour l'éternité. Moi, je ne veux pas y aller, OK? Et un jour, j'en ai ras-le-bol. Après 5-6 mois, j'en ai ras-le-bol. Et je fais un genre de prière à Dieu. Vous me direz si Dieu répond comme ça dans votre cas. Seigneur, de nombreux enfants sont un cadeau de l'Éternel. Dans mon cas, Seigneur, de nombreux enfants, c'est un fardeau de l'Éternel. Moi, je trouve ça vraiment pas drôle. J'ai d'ouvrage, j'ai un ministère accompli. Puis là, j'ai un bébé qui pleure, je suis fatigué, j'ai plus de jus, ma femme est KO, en dépression. Puis là, de nombreux enfants sont un... Non, j'achète pas. À quoi ça? J'en voulais pas d'enfants. Il y a plein de couples qui n'ont pas d'enfants, qui prient jour et nuit pour avoir des enfants. Moi, j'en veux plus, puis j'en ai un. Et là, je prie comme ça à Dieu. Puis Dieu me répond... Ça serait assez temps que tu commences à mettre en pratique ce que tu prêches aux autres. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Un de tes thèmes de ta vie que tu prêches souvent, c'est l'amour. Et cet enfant-là, tu vas l'aimer, et puis tu vas voir le pouvoir de ce que ça crée. Mais regardez ce que ça a fait. Je suis assez intelligent, avec ma formation, pour savoir que si on ne règle pas le problème de ton monde, on va en avoir pour longtemps. OK? Parce qu'un enfant qui est en déficit, là, ça se prolonge dans les années suivantes, ça se complique à l'adolescence, puis on n'en finit plus. Il y a plein d'enfants qui vivent des choses comme ça. Là, j'ai pris Thomas, petit bébé, là. Je l'ai percé, je l'ai forcé. Je lui disais, donne un bisou à papa. OK, il est tout petit. Donne un bisou. Il sait pas ce qu'il faisait? OK. Même si on est un adulte, on éprouve un rejet. T'es obligé de vivre ça, moi? Tu veux pas que je t'aime? Maintenant, vous êtes bien que c'est nul, mon raisonnement, parce qu'un enfant ne pense pas comme ça. Il est en réaction à quelque chose, on ne sait pas quoi. Je vais le forcer à l'aimer. Je l'embrassais. Je l'ai forcé à prendre. Chérie, tu le prends. Berce, tout ce que tu veux de chansons, invente-en, fais n'importe quoi, on repart la machine, comprends? OK? Puis vous savez quoi? On a gagné. On a gagné, les choses se sont rétablies, il a retrouvé son sommeil, on n'a jamais su ce qui s'était passé, on pense que c'est un esprit totalement immature, on a changé 25 fois de lait, même pas 25 sortes, là, mais en tout cas, on a changé souvent de lait, on a tout essayé, les allergies, tout ça. Vous savez, les parents, quand on se retrouve dans des déboires comme ça, comment c'est difficile, on a gagné, puis aujourd'hui, Thomas est un gars de 22 ans, il est super responsable, mature, super fin, hyper stable, OK? On a changé la donne. Alors, n'est pas me dire que l'amour, ce n'est pas un effort. Mais c'est un effort qui rapporte. Mais c'est un effort constant et persistant. 100 fois sur notre métier, on va remettre notre ouvrage. On va aimer parce qu'on est destiné à aimer. Parce qu'on a un Dieu d'amour qui va nous insuffler l'amour. Parce que la première dimension du fruit d'esprit, c'est l'amour. Et on n'aura pas le choix. On regrettera mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. C'est ça le christianisme. Voyez-vous? Donc, dans le cadre du foyer, c'est un amour constant et persistant afin de créer pour ma femme, pour mon mari, pour ma femme, le contexte propice. C'est vrai aussi vrai pour les enfants. Moi, c'est vrai ce que je crois. Peut-être que vous allez me trouver un peu intense, moi, je crois que Dieu m'a placé à côté de ma femme pour que j'aie un effet dans sa vie, dans le plan que Dieu a pour elle. Je crois que je suis participant de ce plan-là. Je crois que je suis participant du plan de Dieu pour la vie de mes enfants. Je crois que Dieu nous a placés ensemble pour que je fasse que j'ai un impact dans leur vie, dans le plan que Dieu. Donc, je suis conscient que Dieu a des plans. Et je suis conscient qu'il faut que je rentre dans ce plan-là. Et que dans ce plan-là, c'est l'amour qui va changer tout. Je crée un contexte propice qui va favoriser leur épanouissement, leur développement. Okay? Et vous savez, vous savez comment je crois en ce que je prêche puis comment je le vis. Je veux être un facilitateur pour mes enfants, pour ma famille, pour ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux ça, on va tout le faire. Je ne parle pas des caprices, là. Ça nous aime d'avoir un sac Louis Vuitton à 5 000 $. Bien sûr, chérie, mais il faudrait que je gagne à l'auto puis je ne prends pas de billets. Donc, on va passer à autre chose. On va aller chez, comment il s'appelle, le New Yorker, Michael Kors. On a beaucoup moins cher. OK, voyez-vous? Mais des affaires sérieuses. Je fais des blagues à part pour détendre. Mais donc, quand on est conscient de cela, mais de part et d'autre, là, je l'exprime encore une fois pour les hommes, mais c'est la même chose pour les femmes envers les hommes, puis la même chose pour les mamans envers les enfants, même chose pour un couple. Et littéralement, qu'est-ce qu'on fait comme pasteur dans une église? On fait la même chose, c'est un effort constant afin de créer pour vous le contexte propice pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Des personnes qui s'épanouissent, florissantes, épanouissent une belle personnalité, et que vous pouvez dire, waouh, cette église-là, elle a impacté ma vie. Donc, c'est ça le sens. Et maintenant, c'est notre responsabilité. Moi, je crois qu'on est les premiers responsables comme hommes. Si on est les chefs, c'est nous, si on est les leaders, c'est nous qui devons assumer ça dès le départ. Et les femmes vont pouvoir se joindre à nous après coup. OK, prochaine diapo. Prenez soin d'elle. Messieurs, prenez soin d'elle, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais la nourrit en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. On est toujours dans le chapitre 5 des Épîtres de Paul aux Éphésiens, qui est une manifestation de l'amour. L'amour prend soin. Take care. Ça prend soin, ça soigne, ça prend soin. Donc, on est là pour prendre soin d'elle, on est là pour protéger, on est là, on va revenir là-dessus d'ailleurs dans quelques instants, mais on est là pour accorder des soins. Et mon iPad vient de mourir, je ne l'ai pas branché, il est mort, c'est pas grave. Donc, on est là pour s'investir dans ce sens-là. Et encore une fois, j'aimerais tellement vous dire qu'il y a des effets et des bénéfices rattachés au fait de prendre soin de quelqu'un. Si cette personne-là est précieuse pour nous, si elle est précieuse aux yeux de Dieu, on doit aller dans ce sens-là et dans cette direction-là de prendre soin d'elle. Quatrième point, assurer sa protection. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Et là, on rentre pas dans le côté macho, archaïque, pauvre les femmes, le sexe faible. Je suis pas là. Je suis dans le sens de protection. Lorsque je vous ai raconté cette histoire de cet homme qui est à la maison qui a blessé ma femme, j'ai pas terminé. On a eu une discussion dans mon bureau ensemble et ça a été costaud, là. C'est une discussion costaud parce que tu ne peux pas parler comme ça à ma femme. Tu es chez moi, tu ne peux pas. Je l'ai fait très respectueux, là. On est deux pasteurs. Mais tu ne peux pas parler comme ça à ma femme. Et tu ne sortiras pas de cette maison aussi longtemps que tu ne te seras pas excusé devant ma femme. OK? Puis je vous dis, c'est costaud, parce que vous ne le connaissez pas, là. Vous êtes costaud, OK? Mais j'ai fait du karaté quand j'étais jeune, moi. La blague. OK? Mais c'est une discussion. Paul a repris Pierre. À un moment donné, il faut être capable d'assumer notre autorité comme mari, parce qu'il avait été vraiment désobligeant. Il s'est excusé dans ma femme, il a pleuré dans ma femme. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi, puis il a raconté pourquoi il réagissait de même. C'est un homme très vif d'esprit, très impulsif, mais quand tu connais, prompt impulsif, mais quand tu connais son histoire, sa famille, comment son père traitait sa femme, comment il était déçu de sa mère, qui parlait dans le dos de son père. On comprit que dans le fond de sa nature, il y avait comme une espèce de template, une espèce d'impression, caractère comme une imprimerie, là, qui a laissé des traces qui fait que ça le déclenche. Mais encore une fois, dans le fait de protéger ma femme, ma préoccupation, c'était pas tant de le rétablir lui. Bien sûr, c'est un produit, mais déjà, dès le départ, c'était de protéger ma femme. Puis aujourd'hui, la relation, elle est bel et bien rétablie. Ma femme, elle dit, t'en fais pas. Ma femme est une femme très gracieuse et miséricordieuse, mais elle avait été blessée quand même. Mais le fait de recréer ça, ça a rétabli la confiance. Puis lui, il a compris qu'il y avait des limites à pas franchir dans la vie. Ce qui est très important d'ailleurs. Et ça, c'est parce qu'on met des mécanismes de protection. On protège ce en quoi on a de la valeur. Voyez-vous que c'est pas facile d'être un homme parfois. Vous comprenez bien, mesdames, c'est pas facile. Je ne peux pas aller dans les détails dans cette histoire parce que je ne sais pas ce que je jouais ce soir-là quand j'ai eu cette discussion-là, parce que je jouais une partie de mon avenir dans un domaine particulier. Mais quand je vais être vieux, lui ne sera plus là. Et ma femme va être là. Et je ne veux pas vivre qu'une femme blessée, puis une femme déçue d'un mari qui a posé, prendre position pour elle pour la protéger. C'est malheureusement ce qui se passe trop souvent dans la vie de nos jours. Donc, messieurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous mouiller dans ce sens-là, à protéger votre femme, mais dans plein de domaines. Là, je compte une anecdote personnelle, mais il y a plein de domaines où on doit la protéger. Face à la critique, face à ce que les autres peuvent être, parfois peut-être un peu face à elle-même, face à cette tendance qu'ont les femmes à toujours se diminuer, se démotiver, tout cela. On est là pour être, on doit jouer notre rôle dans ce sens-là. Cinquième point, affirmer sa valeur. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, cette dimension de valeur ou d'honorer, c'est une question de valoriser. C'est, je crois, dans mon observation, je ne peux pas expliquer toutes les causes, mais je crois que les femmes ont une certaine difficulté avec l'estime d'elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est trop de perfectionnisme, bien sûr, il y a des expériences de vie dans tout cela, des expériences familiales et tout cela, mais je crois qu'une partie de la valeur que nos femmes peuvent retrouver, ça va être par le fait que nous, on les honore. Okay? Si vous saviez comment ma femme est talentueuse, elle sait tout faire. Je le dis, là. C'est pour ce que j'ai acheté pour la fête des mères l'année passée, une scie ronde. Elle voulait avoir une scie ronde, chérie, une scie. Puis ma femme, elle est coquette. Hein. Vous la voyez arriver, là, vous allez voir si un jour elle vient ici. Elle est super coquette, et très féminine. Chérie, une scie ronde. Moi, je suis une fille manuelle. Elle aime ça travailler dans ces choses-là. Elle fait de la couture, elle faisait tous ses vêtements quand elle était enfant. Elle fait toutes sortes de choses. Elle est une cuisinière hors pair. Elle fait autant de la gastronomie française qu'elle peut faire des mets créoles. OK? Une perle de valeur. Je suis tombé sur le jackpot, là, je vous le dis. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle fait de moi un homme abruti. Ce que je m'explique. J'ai vécu 3 ans tout seul. J'étais capable de me faire à manger, j'étais capable de faire ci, de faire ça, je faisais tout ça. Puis depuis qu'elle est là, elle fait tellement tout que je ne sais plus quoi faire. J'arrive à l'épicerie, puis je choisis quoi? Dans ce sens-là, je veux dire que j'ai perdu des fonctions dans ma vie et je suis très heureux de les avoir perdues. La valeur, puis encore une fois, je ne dis pas ça pour créer une anecdote dans un contexte. Je dis, il faut être capable de voir la valeur des autres et de la valoriser. Puis malheureusement, même bien, face à tout ce que je vous dis, elle, ça vous dit, ah, c'est pas ceci, ah, je suis pas comme ça, ah, je pense, chérie, s'il te plaît. Ben là, avant, on disait, mais arrête, là, quand même, tu sais bien que tu es bonne. Non, ça suffit pas. C'est une nourriture qu'on appelle une nourriture affective qu'on doit réalimenter. OK, je t'encourage, je te loue, je suis fier, je bénis Dieu. Et là, on crée un cycle dans lequel la valeur qu'elle a provient de ce que son mari pense d'elle. Et vous savez, ça m'arrive de donner des conférences dans des univers uniquement féminins. OK? J'en ai fait une à Nouvelle-Vie, il y avait 400 femmes devant moi, je suis le seul de gars en place, à part du concierge qui est derrière. Et ma femme était là. Puis c'est vous ce que ma femme ressente, que dans les 400 femmes qu'elle a, là, c'est elle la meilleure. OK? Et ça gonfle, parce que c'est ma femme. Ma femme, voyez-vous? Peut-être que vous avez trouvé ça un peu dépassé, années 50, un peu. Mais moi, je crois, à la lumière de ce texte-là, c'est un vieux verset, ça date de 2000 ans à peu près. Là. Je crois que c'est la valeur qu'on doit faire, qu'on doit honorer à nos femmes. Et vous savez qu'une femme qui est aimée, qui est valorisée, c'est fou ce que ça peut faire comme effet, comme résultat et tout ça. Et ça, c'est. Puis vous pouvez même rattacher ça à la banque d'amour auquel j'ai fait allusion dans la deuxième session ce matin, cet après-midi. C'est que cette valeur-là, c'est des dépôts et des dépôts et des dépôts. Dernière diapo. Est-ce qu'il y en a une dernière ou il n'y a pas une conclusion? Oui. Et non? OK. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle. On est dans le chapitre précédent, le chapitre d'Éphésiens 5 qu'on vient toujours de lire. Vous que Dieu a appelé, là je parle aux hommes autant qu'aux femmes, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Là, on ne parle pas du ministère. On parle de l'appel à vivre cette vie chrétienne-là, à appeler d'être des témoins de Jésus. Soyez toujours humble, doux, patient. De ces trois termes-là, il y en a deux qui font partie du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. la bonté, la bénédiction, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Supportez-vous les uns les autres. Et supportez-vous ici, là, c'est pas la version québécoise. Fais encore que je te supporte. C'est pas dans ce sens-là, non. Jusqu'à quand je te supporterai? Non. C'est assurer un support, un appui à la personne. Supportez-vous les uns les autres avec, encore une fois, amour. Et efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Évidemment, ce texte-là est pour l'Église en général, mais on fait partie de l'Église en général, vous et moi. Donc, on peut prendre ce texte-là et de l'appliquer de façon très personnalisée dans chacune de nos vies en disant, voici, j'ai compris, Seigneur. Voici comment il faut que je me conduise. J'aime l'expression d'une façon digne. Beaucoup de chrétiens vivent en deçà de ce qu'ils devraient vivre. Beaucoup de chrétiens ont honte de leur christianisme. Ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Les chrétiens, tu as besoin d'une béquille dans la vie? Bien, mon ami, on va s'asseoir ensemble, je vais t'en faire une béquille, moi. Je vais t'expliquer quel des deux qui est le plus doué ou le plus privilégié dans la vie. Parce que c'est des préjugés que les gens ont, qu'on absorbe, et qu'on retourne contre nous, et qu'on devient comme, moi, je suis chrétien, mais il ne faut pas que je le dise à tout le monde, parce que ils vont dire, chrétien, là. Vous fiers d'être chrétien? C'est une force, votre vie chrétienne. Est-ce que vous croyez à ce que vous croyez? Ou vous l'êtes simplement par habitude? Donc, si vous êtes véritablement chrétien, vous allez marcher comme un chrétien digne d'être chrétien en disant, wow! Moi, je ne suis pas de complexe que chrétien. Hein? Je ne me sens pas complexé, je ne me sens pas du tout inférieur. Amen. Je ne sens pas que j'ai des béquilles non plus. Je crois que mon Dieu, c'est le créateur de l'univers, puis qui est celui qui peut toucher des vies, transformer des vies, et faire de moi, encore une fois, tout ce que lui veut faire, en autant que je le laisse agir dans ma vie. Et tout cela, bien sûr, quand les deux le vivent pleinement, se crée cet état d'unité dans la famille, parce qu'on est ensemble, qu'on marche ensemble. Le mot paix qui est derrière dans ce texte-là, le mot paix qui est là, c'est intéressant, parce que le mot paix veut dire harmonie. Hein? C'est pas juste l'état de paix dans le sens je suis en paix. C'est plus que cela, c'est le résultat, le sentiment est le résultat du fait qu'on a établi l'harmonie en nous. L'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns aux autres, se relie, nous maintient les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut dire amen à cela?
Amen.
Est-ce que je peux vous demander, ça fait trop longtemps que vous êtes assis, là, je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Avant que vous ayez des plaies, plaies de chaise. OK. Penchons la tête juste quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te louer pour ta parole, Seigneur. Au moment où j'enseigne sur ces textes, Seigneur, tu fortifies mon esprit et mon âme sur la vérité immuable de ce que tu dis. Des vérités, non pas simplement des vérités théologiques ou spirituelles, mais des vérités tangibles qui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Seigneur, tu as mis devant nous ces paroles pour nous aider à devenir, bien sûr, encore une fois, je le répète, ce que toi tu veux qu'on soit, mais aussi surtout à faire ce qu'on doit faire pour avoir les résultats. Et Seigneur, tu vois ces mariages comme ils sont précieux. Tu vois cette vie à deux comme ils sont précieux. Ma prière en ce moment, encore une fois, c'est que par ton esprit, tu puisses les convaincre. Tu puisses faire un œuvre en leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, sauvegarder en eux ce que toi tu juges utile et nécessaire pour leur croissance, pour l'épanouissement de leur vie de couple, Seigneur. Comme homme, comme femme. Seigneur, au-delà des paroles que j'ai dites, que ton esprit fasse cette œuvre. Seigneur, tu sais, Seigneur, que tout est limité sur le plan humain. Mais avec toi, tout est possible et tout est illimité ou sans limite, Seigneur. Et fais cette œuvre. Je prie spécialement pour les hommes en ce moment. Nous, les hommes, parfois, on est mal en point. Je crois que sur Terre, on est plus mal en point, même à la limite, que les femmes. On a eu des pères manquants, on a été des fils manqués, on a manqué de plein de choses, Seigneur. Les mères ont beaucoup investi dans leurs filles, mais nous, on a souvent été laissés pour compte, Seigneur, dans la vie familiale. C'est un tableau qui est redondant. Mais Seigneur, aujourd'hui, on te dit comme homme, fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Fais de moi le mari que tu veux que je sois. Fais de moi le père que tu veux que je sois. Je sais qu'il me manque des aspects dans ma nature. Mais Seigneur, avec toi, je veux marcher et je vais devenir cet homme, ce mari, ce père. Je vais le devenir, je veux le devenir. Je prends la décision, je prends l'engagement de le devenir. Seigneur, comme femme, Seigneur, beaucoup de femmes ont été blessées parfois par leur père, dans leur passé, parfois méprisées, rejetées, tentatives d'être exploitées, d'être jugées, d'être méprisées, d'être utilisées, Seigneur, d'être déçues par tout ce qui est autour. Seigneur, je prie en ce moment que tu fasses un œuvre en elles, qu'elles deviennent la femme que tu veux qu'elle soit, épanouie, resplendissante, la mère, l'épouse qu'elle doit être, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses, Seigneur. Et voilà pourquoi, hommes et femmes, on s'ouvre à toi en te disant, transforme-nous, change-nous, rétablis toutes choses, restaure-nous et fais cette œuvre en nous, afin qu'en retour, tu reçois tout honneur et toute gloire pour ce qui se passe dans nos vies. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Et je pense que tous ensemble, on peut dire Amen, Amen, Amen et Amen.
Amen. Merci, Denis. Allô, allô, oui. Denis, merci encore pour le bon travail. On a aimé, vous avez aimé ça? C'est bon?